On m'appelle la télé, la montreuse à tout va, avant de faire le trottoir. Mais les clients sérieux, c'est pas qu'ils m'embarrassent, et pour pas faire d'envieux, je me les fais face à face.
Je vous déteste. Vous aussi?
On m'appelle la télé.
Ah bah, on est fait pour s'entendre alors. Quoi? Quoi, qu'est-ce que vous dites? Ah, je suis sourde. Un peu. Vous aussi? Ah bah, on est fait pour s'entendre alors.
Ce dialogue imaginé, léger et fleuri, est de Brigitte Fontaine, alors 81 ans, sur l'album Terre Neuve. Voici une conférence enregistrée sur le thème « Croyance ou vérité ?» Comment recréer du dialogue en société avec Régis Falck, doctorant en sciences économiques et de gestion à l'UNAMUR. Il travaille au Centre de didactique économique et sociale. Sa thèse porte sur la pédagogie et l'esprit critique. Olivier Sartenard enseigne l'épistémologie et la philosophie des sciences à l'UNAMUR. Il est le fondateur du Centre de recherche sciences et philosophie qui regroupe une douzaine de philosophes qui étudient la place et le rôle des sciences dans les sociétés démocratiques. Géraldine Duquesne anime cette conférence. Elle est conseillère à la formation et à la prospective à Etopia, le centre de recherche et d'animation en écologie politique. Vous êtes à Namur, au Cinex, le 13 novembre 2025.
Nous sommes nombreux aujourd'hui à ressentir et à nous inquiéter de la difficulté à dialoguer avec d'autres qui pensent différemment de nous. La discussion et le respect à l'égard des opinions divergentes sont pourtant des éléments fondamentaux de nos sociétés démocratiques, mais qui semblent aujourd'hui de plus en plus mis à mal. Alors parmi les causes, on pourrait citer la négation, voire l'ignorance vis-à-vis des faits. On n'arrive plus vraiment à... Il y a moins d'importance qui est accordée aux faits. La manipulation volontaire et délibérée dont ils peuvent faire l'objet. La prolifération des vérités qui est boostée par la multiplication des canaux de diffusion numérique, la simplification à outrance des idées, la pratique de plus en plus éhontée et de moins en moins condamnée du mensonge qui nous mène à une polarisation croissante de la société. La gauche contre la droite, les woke contre les réacs, les progressistes contre les conservateurs, incitant chacun et chacune à choisir son camp. Des dirigeants politiques tels que Donald Trump aux États-Unis, mais qui trouvent certaines répliques ici en Belgique, en la personne de Georges-Louis Boucher par exemple, accentuent, jouent sur cette polarisation en accusant par exemple la gauche d'être responsable de tous les maux, évacuant toute forme de nuance. Du côté des citoyens, les études le montrent, et la confiance dans la science a baissé ces dernières années et une part croissante de la population adhère à des théories du complot, principalement chez les jeunes, les populations les plus défavorisées et les moins diplômées. Aujourd'hui, on se demande un peu qu'en est-il de l'esprit critique ? Et je pense que tous ces éléments interrogent notre capacité à faire société et à s'unir face aux défis gigantesques qui sont aujourd'hui face à nous. Les expertises de nos deux intervenants, je pense, vont nous permettre d'éclairer, d'apporter un éclairage vis-à-vis de ces préoccupations. Et donc, je ne vais pas être plus longue et je vais leur passer directement la parole en commençant par Olivier.
Donc, d'abord, avant de commencer, qu'il me soit permis de remercier Géraldine et les membres d'Etopia donc, pour l'invitation, et Régis en particulier, qui aussi, je sais, était à la manœuvre de l'instigation de cette rencontre. Et je suis très content qu'on ait fait un tour de présentation avant de commencer. Je trouve ça toujours intéressant de voir exactement à qui on s'adresse. J'ai réalisé, après coup, quand j'ai conçu ce petit début d'exposé, que je vais faire très, très court. Je pense que je serai beaucoup plus court que 20 minutes, parce que le but, je pense que c'est plutôt de discuter plutôt que de moi venir quelque part délivrer quelque chose. Je réalise que le sous-titre donnerait un côté un peu leçon. Ça ne va pas vraiment être l'objectif ici du tout. L'objectif, et je trouve que ça cadre assez bien avec l'introduction de Géraldine, ça va être essentiellement celui-ci, ça va être d'essayer de donner un peu de clarté, à mon sens, sur certains des concepts qu'on va sans doute mobiliser dans la discussion par après. Qu'est-ce qu'une croyance, qu'est-ce qu'une connaissance, qu'est-ce que la vérité, quelle prétention on peut avoir à la vérité. Et j'ai l'impression que si ces termes, et c'est ça l'objectif de cette petite introduction ici, si ces termes sont un peu bien établis, ben ça permettra d'éviter certains malentendus possibles qui arriveraient dans la discussion. Donc c'est un peu l'objectif de ce que j'entends faire ici en quelques minutes, donc simplement quand j'entends rudiment d'épistémologie, l'objectif va être surtout celui-ci, qu'est-ce que c'est qu'une croyance, qu'est-ce que c'est qu'une connaissance, qu'est-ce que la vérité, et je parlerai un tout petit peu de complotisme, je parlerai un tout petit peu de comment on peut envisager aujourd'hui des manœuvres assez canoniques pour dissoudre la possibilité de connaître, pour dissoudre la possibilité d'acquérir certaines vérités, qu'elles soient scientifiques ou autres, hein, en particulier. J'ai un peu plié ça pour que ça ne se voit pas, mais du coup je ne vois pas beaucoup la chose. L'enjeu essentiellement donc, que je vais discuter avec vous, c'est qu'est-ce que c'est que savoir, qu'est-ce que c'est que connaître, ça va être un des premiers sujets que je vais aborder, et tout commence quand on fait un petit peu donc, de cette discipline un peu barbare d'épistémologie, hein, donc c'est ce que j'ai écrit ici, donc c'est cette discipline qui étudie la connaissance comme un objet, qu'est-ce que c'est que de connaître, ben, il se fait que l'unité de base à partir de laquelle on va partir quand on fait de l'épistémologie, et vous la connaissez toutes et tous, c'est pas un terme technique, c'est la notion de croyance, d'accord ? Et je sais bien, et c'est une des grandes difficultés de la philosophie théorique en général, et de l'épistémologie en particulier, c'est qu'on utilise des termes techniques qui sont aussi des termes du langage de tous les jours. Vous connaissez le terme de croyance, d'accord ? Et le terme de croyance dans le langage de tous les jours, vous savez qu'il est connoté, souvent quand on parle de croyance, on pense d'abord à croyance religieuse, on pense peut-être à croyance idéologique, c'est souvent plutôt un synonyme d'opinion, d'accord ? Chose importante, en épistémologie, on ne va pas le considérer comme ça. D'accord ? On va le considérer de façon beaucoup plus basique. Une croyance, c'est simplement une disposition à tenir pour vraie. D'accord ? Si je dis qu'un certain sujet S, qui peut être moi, Olivier, mais ça peut être un groupe aussi, un groupe peut avoir des croyances, un certain sujet S croit que P, croit que par exemple il y a du soleil aujourd'hui, ben c'est simplement qu'il le tient pour vrai, indépendamment du fait que peut-être ce n'est pas vrai, d'accord ? Il le tient pour vrai. Alors comme quand on fait de la philosophie théorique, je sais qu'on manipule des objets abstraits, je vais chaque fois prendre des exemples pour rendre un petit peu plus concret. J'ai moi-même fait une petite introspection avant de venir et je vous donne un exemple de certaines croyances que j'ai, par exemple, d'accord ? Je crois par exemple que je m'appelle Olivier. Vous voyez qu'on est très loin d'une croyance religieuse, hein, ça peut être aussi élémentaire que je tiens pour vrai le fait que je m'appelle Olivier, et j'espère ne pas me tromper à cet égard. Je crois que Namur est en Belgique, je crois que Charleroi est une ville charmante, je pourrais croire, bon là c'est pour la blague, que la Terre est plate, ou encore je crois que le dieu pastafarien, donc spaghetti boulette géante, existe. Et voilà donc un éventail de choses que je pourrais être disposé à tenir pour vraies, indépendamment de savoir si elles sont ou non vraies. Et vous vous en doutez, quand vous les voyez, je les ai choisies expressément comme ça, que dans ce registre de croyances, il y en a probablement une qui est fausse, d'accord ? Si Charleroi était une ville charmante, ça se saurait. D'accord ? Et je me permets cette blague, parce que je suis Carolo, sinon je ne me permettrais évidemment pas cette blague. Alors, ça nous amène évidemment à la deuxième question. Parmi ces croyances, vous avez sans doute reconnu qu'il y en a des fausses, on appelle des croyances fausses, et d'autres des vraies. Ce qui nous amène à la deuxième idée, il n'y en aura que trois, rassurez-vous, vous allez voir, c'est pas très long, à la deuxième idée, mais qui n'est pas une idée très simple, évidemment, qui est une idée elle-même philosophiquement très chargée. Il y a beaucoup de théories de la vérité, on ne va pas s'intéresser à ça ici. Je vais vous donner une compréhension assez standard, à mon avis assez par défaut, de ce qu'est la vérité, et vous allez voir que déjà à ce niveau-là, ben, il y a des complications qui vont rentrer en ligne de compte. Et la vérité, dans la théorie la plus standard ou par défaut, c'est ce qu'on appelle la théorie correspondantiste. Pourquoi on l'appelle comme ça ? Parce que la vérité, ça va être une correspondance entre un élément de langage et des faits, donc c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Ça nous permettra de dire qu'une phrase petit p est vraie, alors j'ai mis petit p au masculin évidemment, mais c'est vrai, bien sûr, une phrase est vraie, mais si et seulement si petit p. Par exemple, et ça c'est une phrase très importante en philosophie, c'est pour ça qu'on la note sur des t-shirts, hein, les physiciens ils ont E égale mc carré, nous on a il pleut est vrai si et seulement si il pleut, et quand je dis ça à mes étudiants, généralement ils me disent ils n'ont pas dû se lever tôt les philosophes pour inventer celle-là, parce que il pleut est vrai si et seulement si il pleut, ça a l'air assez basique, mais en fait c'est pas aussi basique que ça en a l'air, pourquoi ? Parce qu'il y a des petits guillemets ici. Et qu'est-ce que c'est les petits guillemets ici ? Ben, quand je mets des petits guillemets autour de il pleut, comme quand je mets des petits guillemets autour de p, je veux dire la phrase selon laquelle il pleut, d'accord ? La phrase il pleut. Et cette phrase, en tant qu'élément de langage, elle peut avoir une propriété d'être vraie ou fausse, il n'y a que les phrases qui ont cette propriété, on ne peut pas dire d'un fait qu'il est vrai ou faux, mais d'une phrase on peut le dire, et on va dire que la phrase « il pleut » est vraie, si et seulement si le fait qu'il pleuve, donc si et seulement si il y a en fait de la pluie dehors. Le problème c'est que je suis prisonnier du langage quand je vous parle, et donc je ne peux pas vous mettre ce fait de la pluie ici, je ne peux l'exprimer que par une phrase. Et donc pour montrer que là je parle de la phrase qu'il pleut et que là je parle du fait qu'il pleut, là, je mets des guillemets, mais là, j'en mets pas. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une nuance importante. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette théorie de la vérité, autrement, et c'est assez simple, ben, on va dire qu'une phrase est vraie si et seulement si il y a un fait qui lui correspond, si elle représente le réel correctement. Donc, par exemple, si je dis aujourd'hui il pleut, je regarde par la fenêtre, ben, on voit que cette phrase est fausse. Et ce qui est important, et c'est ça le point qui va nous intéresser ici, c'est que c'est le monde qui rend faux cette phrase. C'est le monde qui est l'arbitre de la vérité de nos représentations. D'accord, ça, c'est important. On dit de la vérité qu'elle est une notion métaphysique. Elle ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de moi, de ma volonté, de mon langage, s'il y a du soleil ou de la pluie maintenant. C'est le monde qui sanctionne la vérité. Donc, ce sont les faits, pour le dire autrement, qui rendent vrai ou faux les phrases. D'accord, ça, c'est une chose importante. Vous allez voir un exemple dans un instant qui montre que, en parlant de Trump, on va déjà jouer avec cette notion métaphysique de vérité. Et donc si maintenant je le réapplique à mes exemples, alors là je vais enfoncer des portes ouvertes, vous n'aurez rien appris aujourd'hui en venant si c'est ça que vous avez appris, ben, Namur est en Belgique est vrai, Pourquoi ? Parce qu'il y a un fait qui correspond à la localisation de Namur dans les frontières de la Belgique. Ce fait rend vrai la phrase « Namur est en Belgique ». Par contre, bah, sans surprise, j'espère qu'il n'y a pas de platiste dans la salle, après on peut en discuter après, c'est toujours amusant, mais « La Terre est plate » est vrai si et seulement s'il y a un fait qui correspond à la platitude de la Terre. Or, il n'y a pas ce fait, on va se demander pourquoi dans un instant, mais donc ça rend faux. Donc la rotondité de la Terre rend fausse la phrase « la Terre est plate ». Et alors, il y en a d'autres, par contre, je prends l'exemple du dieu pastafarien, je ne l'avais pas choisi pour rien, ben là, on ne sait pas très bien ce serait quoi le fait qui correspondrait à l'existence d'un dieu pastafarien ou d'un autre dieu. Je prends souvent le pastafarien parce qu'on peut taper dessus en rigolant alors que les autres, il vaut mieux éviter, bien sûr, c'est beaucoup plus politiquement correct. D'accord ? Mais donc la valeur de vérité, elle est indéterminée ici. Donc on voit que parfois, il y a des phrases, on peut dire qu'elles sont vraies, d'autres qu'elles sont fausses, et d'autres, on ne sait pas très bien. Mais chose importante, gardez-le à l'esprit, ce qui fixe la vérité de ça, la fausseté de ça, ou le caractère indéterminé, c'est ultimement le monde. C'est le monde qui est tel qu'il est. Et ça, je sais, j'ai pris un exemple parce qu'on parle de Trump ici, vous le savez bien qu'aux États-Unis, rien que cette notion métaphysique de vérité, elle est bafouée quotidiennement. J'ai pris pour exemple Caroline Leavitt, dont vous connaissez, c'est la press secretary de la Maison-Blanche actuelle, qui rend dingue tous les journalistes, mais comme toutes les précédentes press secretary de Trump, je vous rappelle qu'il y a quelques années, il y en a une qui invoquait des faits alternatifs. Lorsque les faits rendaient faux des phrases de Trump, elle disait, mais non, c'est vrai relativement à des faits alternatifs, ce qui est évidemment assez incroyable. Mais ici, par exemple, on voit bien qu'elle n'a pas, et c'est volontaire, c'est une manœuvre rhétorique, on pense bien qu'elle n'est pas sincère, qu'elle n'a pas cette idée que ce sont les faits extérieurs à nous qui rendent vrai ou faux nos représentations. Quand elle dit « c'est un fait qu'on appelle le Golfe du Mexique, Golfe d'Amérique », on voit bien qu'elle n'a pas évidemment cette idée que les faits, ce sont eux qui sanctionnent la vérité de nos représentations, et ça rend évidemment un peu tout le monde dingue, parce qu'on voit bien que là, on a une construction des faits, ce qui est une chose qui est évidemment totalement interdite. Ok. Troisième concept, et ce concept, il arrive assez naturellement, si vous vous posez la question, mais comment est-ce que je sais que des choses sont vraies? Comment est-ce que je sais que la Terre est ronde? Ou comment est-ce que je sais que la Terre est plate? Mais c'est là que le troisième concept, et c'est de loin le plus compliqué, mais on ne va pas rentrer dans les détails ici, c'est ce qu'on appellera la justification. Il faut avoir des raisons de croire, et idéalement, des bonnes raisons de croire. Et vous le pensez bien, toute la misère du monde est cachée dans c'est quoi une bonne raison? Qu'est-ce qui fait que certaines raisons sont bonnes et certaines ne sont pas bonnes? Je vous prends quelques exemples pour revenir sur la phrase et la croyance que j'ai en laquelle Namur est en Belgique. Et si je vous dis qu'il est vrai que Namur est en Belgique, comment est-ce que je sais que c'est vrai que Namur est en Belgique? Ben voilà quelques justifications que je peux vous présenter. Moi, je sais que j'habite en Belgique, et pour venir jusqu'ici, je n'ai pas passé de frontière. Ben donc, c'est que quelque part, je suis en Belgique. Ça, c'est une justification, c'est une raison que j'ai de penser que Namur est en Belgique. Ou alors, ça, chose importante, on y reviendra sûrement dans le débat, j'ai fait recours à un expert. Il y a un expert qui m'a dit que Namur était en Belgique, et je lui fais confiance. Mais cet expert aurait pu me tromper, donc une justification, vous voyez que ça donne des raisons de penser, ça donne jamais des garanties de penser. Ou alors autre chose, j'ai mangé des frites tout à l'heure et elles étaient bonnes, et on sait qu'il n'y a qu'en Belgique qu'on fait des bonnes frites, et donc je dois être en Belgique. Mais ça, c'est une forme d'inférence qui pourrait être une raison, pas forcément une bonne, de penser qu'on est en Belgique. Ou alors, autre justification, c'est pour vous montrer qu'il y en a dans différents genres, quand j'arrive en Belgique, je ressens que je suis en Belgique. Vous voyez, un peu comme quand on passe la frontière en France, une sorte de chape de plomb qui nous tombe dessus, on sent qu'on n'est pas dans une ambiance aussi chaleureuse ou ce genre de choses, et donc quelque part, on sent qu'on est en Belgique. Et c'est une forme de justification, vous allez dire, ben, elle prête à sourire, c'est pas une bonne justification, bien sûr. Mais je vous mentionne quelques raisons qu'on pourrait avoir de croire quelque chose. Et pourquoi est-ce que je vous parle ici de croyance, de vérité et de justification? Ben c'est parce que classiquement, ces trois ingrédients, c'est ce qui forme la connaissance. Quand on définit classiquement, en philosophie, c'est quoi connaître? Ben connaître, c'est croire véridiquement pour de bonnes raisons. D'accord? C'est ça la définition la plus canonique, c'est pas là forcément l'unique, mais la plus canonique de ce que veut dire connaître. Et donc, je reviens à mon exemple. Certes, je crois que Namur est en Belgique, et j'espère que vous le croyez aussi, mais on peut aussi dire qu'on le sait. C'est pas simplement qu'on le croit, c'est qu'on le sait. On peut dire qu'on connaît, c'est une connaissance que nous avons, que Namur est en Belgique. Et pourquoi est-ce qu'on peut dire que c'est une connaissance? Parce que d'abord, on l'y croit, on le tient pour vrai, mais en plus, c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a un fait qui lui correspond, et en plus, on a des bonnes raisons de le croire. Tout ça ensemble fait qu'on est autorisé à dire « je sais que Namur est en Belgique ». Je ne fais plus que le croire, je le sais. D'accord? Et ça, c'est un enjeu important pour fixer les concepts de connaissance. Et vous voyez d'emblée, pour la petite histoire, que lorsqu'on définit comme ça la connaissance, ça fait de la connaissance une croyance. Ça, je sais que c'est assez contre-intuitif. Quand je montre parfois ce diagramme, qui pourtant est une banalité de l'épistémologie, c'est pour ça que j'ai mis une petite tête en marbre ici depuis Platon, c'est ce qu'on dit jusqu'à Chisholm dans les années 50-60. Donc, 2000 ans, les philosophes sont rarement d'accord sur beaucoup de choses, mais sur ça, pendant 2000 ans, de manière étonnante, ils ont été assez d'accord. J'ai un youtubeur philosophe que je connais très bien, que j'apprécie beaucoup, que je vous conseille, Monsieur Phi. D'accord, il a fait une petite vidéo, savoir croire. Alors, vous ne le voyez pas bien ici, mais en gros, il dit « La science est une croyance, ce n'est pas grave, buvez de l'eau, ça va bien se passer. » C'est une banalité que de dire que les connaissances sont un type de croyance. Ça ne veut pas dire que connaissances et croyances se valent, ça ne veut pas dire que les connaissances sont des opinions, d'accord? Parce que ça veut simplement dire que les connaissances sont une sorte d'espèce d'élite, la Rolls-Royce de la croyance. Si vous voulez, c'est des croyances d'un genre particulier qui ont ceci de particulier, en plus que les bêtes opinions qui seraient ici, qu'elles sont vraies, qu'elles sont justifiées. Et ça, c'est pas rien. D'accord ? Non seulement elles doivent être vraies, en plus elles doivent être justifiées, et alors elles deviennent des connaissances, c'est-à-dire pas des simples croyances, justement. Je pourrais avoir une croyance, la croyance dans le dieu pastafarien, mais elle n'est pas une connaissance, c'est peut-être une opinion, c'est peut-être une croyance, je n'ai pas de bonne justification, je ne peux pas savoir si elle est vraie, etc., etc. Mais c'est très différent de dire que je sais que la Terre est ronde. D'accord ? Donc on voit bien que le fait que les connaissances sont comprises comme une sous-variété de croyances n'en fait pas nécessairement quelque chose de dramatique. Alors je cite rarement des philosophes, mais j'en cite quand même un ici que j'apprécie, vous connaissez sans doute Morpheus dans le film Matrix, quand il dit à Neo, quand il apprend le Kung-Fu à Neo, on voit bien en fait qu'il connaît la théorie classique de la connaissance des philosophes, parce qu'il dit ceci à Neo, on n'est pas le meilleur quand on le croit, mais quand on le sait. Et on voit que là, il manipule bien les concepts de croyance et de connaissance, parce qu'effectivement, si Neo se contente de croire qu'il est le meilleur, il peut ne pas l'être, la croyance peut être fausse, mais aussitôt qu'il le sait, puisque la connaissance implique la vérité, il est automatiquement le meilleur. D'accord ? Donc il manipule bien, Morpheus, la théorie classique de la connaissance. Et donc ça veut dire que si vous voulez être le meilleur, vous savez ce qu'il vous reste à faire, il suffit de le savoir, en fait. Ok. Alors, je vais peut-être prendre encore 2-3 minutes pour simplement, maintenant que ceci a été déterminé, je vais un tout petit peu amener le spectre du complotisme, du scepticisme, en fait, parce qu'évidemment, c'est une chose de définir la connaissance, voilà ce que c'est que connaître, voilà une analyse possible de la connaissance. La question importante, et je pense que c'est ce qui va peut-être arriver dans le débat, ben c'est est-ce qu'on peut prétendre savoir ? Est-ce que quand le GIEC dit qu'il y a un changement climatique, est-ce qu'ils peuvent prétendre savoir ça ? Est-ce qu'on peut accéder à ce savoir ? C'est bien de le définir, mais on pourrait définir quelque chose qui est inaccessible. Et donc se pose la question de est-ce qu'on peut savoir ? Et il y a une vieille tradition, donc je remis une tête en marbre simplement pour vous montrer que c'est aussi vieux que l'histoire de la pensée, occidentale de type, on va dire, scientifico-philosophique, d'accord ? Dans la personne de Piron, d'accord, qui est ici, qui est un autre, ce qu'on appelle un père fondateur du mouvement sceptique, qui a gardé le terme sceptique aujourd'hui, sceptique dans le sens négatif du terme, c'est-à-dire la personne qui pensait qu'aucune connaissance n'est possible. On ne peut rien savoir. La connaissance telle que je viens de vous la définir, c'est un inatteignable, ce qui fait que je ne peux même pas savoir que je m'appelle Olivier. Je peux prétendre le savoir, je peux même pas savoir que j'ai deux mains, je peux même pas savoir que ma gourde est bleue, je peux même pas savoir que je suis ici face à vous. Et c'est pour ça qu'on représente parfois Piron, vous allez vous demander pourquoi cette image, c'est lui ici, alors je sais qu'il n'y a pas une ressemblance frappante entre les deux, mais c'est lui ici sur le bateau dans la tempête, et il institue ou il exemplifie cette attitude du sceptique, qui est en fait celui qui se dit je ne peux pas vraiment savoir que le bateau est dans une tempête, je ne peux pas vraiment savoir qu'il est temps que je me bouge un petit peu, je ne peux pas vraiment savoir que ma vie est en danger, et donc je reste là tranquillou pendant que tout le monde s'agite autour. Il est fort probable qu'une attitude telle que celle de Piron ne l'aurait pas permis de vivre aussi vieux, d'accord ? Si quand une voiture arrive face à vous, vous vous dites « est-ce que je sais vraiment qu'elle va me rouler dessus, que vous ne vous écartez pas ?» ben, il est probable que vous ne surviviez pas très longtemps. Donc c'est une posture philosophique très théorique de dire « on ne peut rien savoir ». Et il se fait, d'accord ? Et ça je vais laisser tomber pour ne pas perdre trop de temps, il se fait que ce pyrrhonisme, ce scepticisme, il a essaimé au travers de l'histoire de la pensée, celles et ceux qui ont déjà entendu parler du malin génie cartésien, c'est ça ? Celles et ceux qui ont déjà entendu parler des cerveaux dans une cuve, ce qui est le plot du film Matrix, pour la petite histoire, c'est exactement la même chose, mais jusqu'au complotisme aujourd'hui, qui est une forme de scepticisme dans ce genre. Le complotisme, ce n'est jamais qu'une version très moderne, si vous voulez, de cette idée selon laquelle on ne peut rien savoir, puisqu'il n'y a aucune justification qu'on peut prétendre acquérir sur quelque croyance que ce soit, qui ne soit pas parfaitement, qui ne garantisse la vérité. Pour prendre un exemple, parce que je vois bien que je vais assez vite ici, je pourrais dire « je sais que ma gourde est bleue », d'accord ? Et pourquoi est-ce que je le sais ? Mais parce que j'y crois, parce qu'elle a l'air d'être bleue, et j'ai des raisons de penser qu'elle est bleue. Pourquoi j'ai des raisons de penser qu'elle est bleue ? Parce que je la vois comme bleue, ça c'est une première raison. Si je vous demande quelle couleur elle est, vous me dites toute bleue, ben, j'aurai d'autres raisons de penser qu'elle est bleue. Mais les sceptiques vont dire ces raisons, elles ne garantissent jamais la vérité, parce que je pourrais être dans un rêve, je pourrais avoir bu trop hier soir et ne pas bien voir, je pourrais être daltonien, la lumière ne pourrait pas être bonne, vous pourriez tous être en train de mentir, il pourrait y avoir un complot qui fait que je la vois bleue, mais quelqu'un m'a mis à mon insu dans mes yeux un petit produit qui fait que je vois plus les couleurs comme il faut. Vous comprenez qu'il y a plein de possibilités qui feraient qu'en dépit de ma justification, je ne sais pas vraiment qu'elle est bleue. Mais ça, c'est essentiellement la stratégie complotiste qui va exiger de vous des justifications toujours tellement parfaites que vous ne les avez jamais et que vous ne savez en fait finalement jamais rien. Et je pense que je vais peut-être m'arrêter ici. Je vais passer alors du coup la parole à Régis.
Merci Olivier, merci évidemment Géraldine, merci également à Etopia. Alors si j'utilise des mots qu'Olivier utilisait, mais malheureusement j'ai pas la même rigueur que toi pour les utiliser, n'hésite pas à me corriger après. Moi très rapidement, donc je m'appelle Régis, je suis un homme blanc, hétérosexuel, cisgenre, j'ai des enfants, d'accord, mais je suis aussi un coureur à pied. Et comme tous les coureurs à pied, j'aime bien crier à la face du monde que je fais de la course à pied, ça c'est moi, d'accord. J'adore aller courir, j'aime bien également dire à quel point je cours longtemps, d'accord ? Je fais de l'ultra-distance. Voilà, comme tous les coureurs, j'aime bien le crier à la face du monde. Pour le moment, c'est la nuit et quand je rentre chez moi, je me dis, tiens, je dois courir dans Sydney, je dois courir dans les bois. À quoi est-ce que je pense ? Est-ce que j'ai pris mes petites gourdes de flotte ? Est-ce que j'ai bien pris mon short préféré ? Est-ce que je prends mes chaussures plutôt pour aller sur de la route ou plutôt aller dans les bois ? Est-ce que j'ai bien pris ma casquette ? Est-ce que mon téléphone est chargé ? Et puis, le soir venu, je pars courir dans la nuit, dans les bois ou dans Sydney. Très bien. Et puis un jour, je me suis posé la question, ben en fait, finalement, quand on demande à des coureuses, tiens, à quoi pensez-vous quand vous allez courir ? Ah, ben en fait, ça a été fait. Il y en a qui disent, ben en fait, aller courir le soir dans une ville, moi, ça m'insécurise, donc peut-être que je ne le fais pas. Est-ce qu'aller courir seule dans les bois, est-ce que je le fais ou pas ? J'ai posé la question à ma sœur, qui est aussi une coureuse. Elle me dit, ben non, en plus, elle a déjà été agressée une fois de nuit. Et donc, évidemment, ça ne lui plaît pas trop. Se pose aussi la question de, tiens, est-ce que mon téléphone est chargé pour prévenir quelqu'un ? Est-ce que, éventuellement, je ne vais pas passer dans un endroit dans lequel il y a moins de lumière ? Oui, mais si moi je dis que, en fait, courir le soir, c'est safe, est-ce que je suis en train de mentir fondamentalement ? Est-ce que par rapport à ce phénomène social-là, est-ce que je suis en train de mentir ? Ben, en fait, je suis de bonne foi. Mais on voit déjà que d'où on parle, qui on est, va déterminer notre relation aux phénomènes sociaux auxquels on va être confronté. Et donc, on peut très bien vivre dans la même société, mais en fonction de où on parle, de qui on est, comment on s'intègre dans la société, notre rapport à la société, notre rapport aux faits sociaux va être aussi déterminé par qui on est et par de où on parle. Alors, vous allez me dire, oui, mais finalement, perçoit-on tous la même chose dans les phénomènes sociaux ? Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette petite illusion d'optique qui s'appelle l'échiquier d'Adelson. Vous avez deux cases, hein, la case A et la case B. La case A qui a l'air d'être gris foncé, la case B qui est gris clair. Pour mettre des mots sur ce qui se passe dans notre tête, et là je fais référence aux travaux de Daniel Kahneman, en gros vous avez votre intuition, votre perception qui vous dit probablement que B est plus clair que la case A. Et globalement, si je pose la question à tout le monde, est-ce que vous percevez bien que B est plus clair que la case A ? Ben, je pense que tout le monde ici, on s'accorde pour dire oui, nous percevons tous que B est plus clair que la case A. Alors, moi je vous dis, en fait c'est une illusion d'optique, A et B sont de la même couleur. A et B sont parfaitement de la même couleur. Vous êtes probablement en train de vous dire « Ok, Régis, est-ce que je peux lui faire confiance ? Bon, il vient de l'université de Namur, ça a l'air d'être quand même quelqu'un de bien, il se présente bien, je pense qu'on a une chouette description de son parcours, je pense qu'on peut lui faire confiance. » Donc, on va admettre que A et B sont de la même couleur. Peut-être que ce que vous avez fait aussi un jour dans votre vie, c'est prendre un nuancier gris que vous avez mis près de la case B et près de la case A, et donc vous avez eu l'occasion d'expérimenter là par vous-même. C'est plus de la connaissance rapportée, on y reparlera, de la connaissance de second ordre et de premier ordre. Mais là, vous avez pu expérimenter par vous-même le fait que les deux cases étaient de même couleur. Donc soit vous connaissez l'échiquier d'Adelson, soit moi je vous dis les deux cases sont de même couleur. On est d'accord pour se dire que les deux cases sont de même couleur, ok ? Est-ce que malgré l'information que je vous ai donnée, vous voyez B de la même couleur que A ? Ben, la réponse en fait est toujours non a priori. C'est-à-dire que notre intuition, notre système 1 selon Daniel Kahneman, est assez résistant au changement. Et pour faire abstraction du fait que B est plus clair que A, ça vous demande un coup cognitif de vous projeter dans l'idée que A et B sont de la même couleur. Ce coup cognitif, par rapport à l'échiquier d'Adelson, il est très faible, c'est-à-dire mettre de côté sa relation intuitive à l'information pour arriver à une information qui est plutôt de l'ordre analytique et de voir que A et B sont de la même couleur. Vous pouvez faire abstraction de votre intuition et de votre impression première facilement, car l'échiquier d'Adelson ne va pas fondamentalement changer votre vie. On s'en tape que les couleurs A et B, que les cases A et B soient de la même couleur. On s'en fiche complètement. Retenez quand même cette idée de coût cognitif. Parce que je vais prendre un sujet qui est un peu chaud, car je travaille à l'université sur les questions socialement vives. Et désolé de prendre des sujets chauds, l'idée n'est pas de créer une discussion autour de ça, mais je vais prendre notamment un sujet lié à la vaccination. Alors moi, mon point de vue sur la vaccination, il est très simple. Je m'en tape complètement, en fait. Je m'en fous. On ne va même pas parler de ça parce que je m'en fiche. Mais c'est juste pour vous faire comprendre la notion de débat de société et de coût cognitif que ça peut avoir. Un jour, j'ai une collègue qui vient près de moi, donc j'étais enseignant, et qui me dit la chose suivante, tu sais Régis, aux soins intensifs, 55% des gens sont vaccinés, 45% ne le sont pas, alors ne venez pas me dire que le vaccin, ça fonctionne. Je précise que c'était une professeure qui était dans un cadre scientifique, je ne dis pas dans quel domaine, parce que je n'ai pas envie qu'on puisse la retrouver et l'identifier. Eh bien, évidemment, ça me semble vraisemblable ce qu'elle me dit là, c'est-à-dire qu'à l'instar de l'échiquier d'Adelson, je vois bien que ma case B est plus claire que la case A, je lis cette information-là, il me paraît vraisemblable que sur la base de ces données, considérant que ces données sont vraies et elles le sont, eh bien, sa conclusion nous paraisse à peu près logique. Si vous avez fait un petit peu de statistiques, vous savez probablement que quand on vous donne des représentations sur un échantillon, il faut surtout se poser la question de savoir quelle est la répartition entre deux groupes dans la population, en fait, de base. Parce qu'en fait, juste avoir des représentations dans un échantillon, ça ne sert strictement à rien. Il faut avoir les représentations dans la population. Bref, si on fait un petit exercice de statistique qu'on peut faire avec des bacs 1, en réalité, cette statistique-là nous montre que le vaccin offre une protection qui est supérieure d'un ordre de grandeur de 3,67. En fait, si on fait des rapports entre échantillons et population, c'est la chose suivante. Mais bref. À l'instar de l'échiquier d'Adelson, je vous explique finalement que ce que notre système 1 voit, ce que notre intuition voit, ce que notre information première voit, ici, a l'air vraisemblable, mais pas nécessairement vrai. Et je fais ici la démonstration qui montre que effectivement, ça n'est pas vrai du tout. Sauf que cette fois-ci, comme pour l'échiquier d'Adelson, de passer de notre impression de vraisemblable de notre système 1 à notre système 2 a un coût cognitif. C'est-à-dire que si vous êtes, si comme moi, les vaccins, en fait, vous en foutez complètement, bah, peu importe, vous dites « Ah bah oui, en fait, je me suis planté, je vais changer mon point de vue sur le sujet ». Par contre, si vous êtes animé par la question de la vaccination, évidemment, peut-être qu'il y a une phrase qui vous est venue en tête, « Oui, mais les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut !» qui montre quand même une résistance, cette fois-ci, à concéder à son système 2 une sorte de véracité par rapport à son système 1. Et ce qui se passe ici, c'est évidemment ce blocage, et je voulais juste mettre en lumière que sur une information, changer d'avis, ou en tout cas, parfois, laisser libre cours même à sa connaissance, peut avoir un coût cognitif. Changer d'avis sur des sujets n'est pas anodin, c'est pas juste une question de connaissance, de je chope une nouvelle connaissance et d'office je vais changer d'avis parce que je suis un être tout à fait neutre. C'est-à-dire que les idéologies qui nous traversent vont impacter durablement la façon dont nous allons traiter l'information. Et donc, évidemment, ici, si vous acceptez la démonstration que je vous ai faite, ça peut remettre, par exemple, si vous êtes contre l'idée de la vaccination, ça peut venir mettre à mal votre identité anti-vaccin, le fait que vous avez peut-être vous-même partagé cette information-là, et que donc, moi qui vous dis qu'elle est fausse, vous vous dites, mais donc j'ai partagé une information fausse, et donc j'ai été naïf, et donc ça veut dire que je me suis engagé à l'égard du monde extérieur sur une information qui n'était pas nécessairement vraie. Bref, identitairement parlant, alors qu'avec l'échiquier d'Adelson, vous me concédiez assez facilement que l'on pouvait faire abstraction de notre intuition première, eh bien avec la question de la vaccination, c'est pas nécessairement le cas. Il y a un coût cognitif à changer d'avis, et cette notion de coût cognitif, on y reviendra parce que c'est aussi le cœur des débats et le cœur d'une forme de plasticité cognitive, notamment quand on doit changer d'avis. Et changer d'avis n'est pas juste lié à une nouvelle connaissance qu'on adhère, mais parfois est éminemment lié à des idéologies, à des identités et à des jeux sociaux qui nous dépassent et qui parfois nous cadenassent dans des idéologies en particulier. Je vais peut-être pas revenir sur la notion de dissonance cognitive, où on en parlera plus tard, comme ça je vais être aussi court qu'Olivier, je ne vais pas trop dépasser. Mais en gros, notre rapport au monde, il est déterminé par deux choses, par nous-mêmes et par le monde. Notre perception que l'on a des événements sociaux, bah, il est notamment cadré par trois limites humaines, que sont les limites dimensionnelles, culturelles et cognitives. Le monde, nous ne pouvons en faire l'expérience que depuis notre propre subjectivité. Je ne peux pas expérimenter le monde à travers le corps de Géraldine ou de Olivier. Je suis bloqué éternellement, en tout cas autant que la technologie nous le permette pour le moment, mais je suis bloqué dans mon corps, un corps d'un mètre 93, avec une durée de vie qui est quand même relativement limitée. Je ne peux pas être partout et tout le temps dans l'espace. Alors vous allez me dire, oui, c'est évident. Oui, mais ça conditionne par exemple quand même notre rapport à certaines informations. Par exemple, la différence entre la météo et le climat. Moi, Régis Falk, je peux faire l'expérience de la météo. Pour reprendre l'exemple d'Olivier, je regarde dehors, il y a du soleil, je fais l'expérience de la météo. Je ne peux pas faire l'expérience du climat. Je ne peux pas faire l'expérience d'une augmentation de 2 degrés moyenne de la température mondiale parce que ça impliquerait que je doive avoir le don d'ubiquité et d'être partout en tout temps en faisant la moyenne sur toute l'année des variations en tout espace du globe de toutes les températures. Alors je peux le faire mathématiquement, mais dimensionnellement, je ne peux pas, moi, physiquement, en faire cette expérience. On a aussi nos limites culturelles. Nous parlons tous d'un point de vue. Nous sommes tous nés dans des idéologies, dans une famille qui défend peut-être une religion, qui défend peut-être des convictions politiques dans un pays qui défend une certaine forme de liberté, de rapport à soi-même, de rapport aux autres, de rapport à la liberté d'expression. Et puis les limites cognitives que sont celles, et peut-être qu'on en viendra si vous voulez qu'on en discute, mais que sont celles notamment de notre capacité, de notre cerveau à traiter de l'information. C'est là qu'interviennent les biais cognitifs dont vous avez sûrement déjà entendu parler, avec des listes interminables sur des sites internet de biais cognitifs, et il y a des sites qui les listent intégralement. Mais je veux dire par là que notre rapport à l'information est aussi limité cognitivement parlant, et peut-être qu'on en parlera aussi, le fait que dans le monde dans lequel on vit, l'information va extrêmement vite, alors que la structure de notre cerveau, la structure qui nous permet de traiter l'information, elle, n'a pas changé. Parce que notre cerveau n'a pas pu évoluer aussi vite que les technologies sur les 20 dernières années. Donc notre cerveau, il a besoin de temps, il a besoin de prendre ce temps, et on en parlera, on est dans une société qui ne permet pas à notre cerveau de prendre ce temps et qui joue sur nos biais cognitifs. Ça, c'est du côté de l'être humain. Et du côté du monde, il y a ce que j'appelle moi un peu les trois cavaliers de l'apocalypse, c'est qu'on vit dans un monde complexe, incertain et stochastique. Alors, j'ai remplacé le mot stochastique par le mot hasard. Le monde complexe, alors on est toujours entre une forme de vertu et de vice sur ces trois éléments. L'être humain, il a toujours voulu comprendre la complexité et la simplifier. Par exemple, c'est ce que fait la physique en essayant de trouver des grands principes qui viennent régir le monde. Donc on a une volonté en tant qu'être humain à comprendre la complexité pour essayer de la simplifier. L'incertitude, on veut pouvoir l'encadrer pour savoir de quoi va être fait demain. Depuis que l'être humain existe, il était de sa survie de pouvoir transformer cette incertitude en certitude. Par exemple, en prédisant le temps qu'il va faire demain, en développant des modèles météorologiques qui permettent de savoir si demain il va falloir s'abriter à cause d'un ouragan ou pas. Et puis le hasard, l'être humain aussi a toujours voulu cadrer ce hasard pour savoir, tiens, quelle est la probabilité qu'un événement futur arrive. Le problème, c'est que, à nouveau, dans de la communication politique, par exemple, en fait, ce monde qui est complexe, incertain et stochastique, on va vouloir traverser une frontière que j'appelle la frontière de ces trois cavaliers de l'apocalypse, qui est qu'on va avoir une information qui va être simple, certaine et déterminée. Et ça, notre cerveau humain, il aime bien. Et donc, finalement, face à un monde complexe, incertain et stochastique, on va essayer de servir au cerveau humain un monde simple, certain et déterminé, parce qu'en fait, on aime bien manger ça, on adore se retrouver face à des éléments qui sont extrêmement clairs. Et en fait, dans de la communication politique, et on pourra parler et alors, généralement, moi, quand je parle de politique, soit les gens considèrent que je suis ami avec tous les partis, soit que je les déteste tous, parce que je prends des exemples dans tous les partis, et je suis désolé, il n'y a aucun parti qui échappe à la règle, mais tous vont en fait tirer à armes égales, qui est de réduire justement ces trois cavaliers de l'apocalypse à quelque chose de compréhensible pour l'esprit humain. C'est tout un enjeu au niveau de la communication politique. Parce que, évidemment, c'est beaucoup moins sexy de communiquer en termes de complexité. Oui, mais vous savez, en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. En fait, il faut nuancer d'incertitude. Oui, mais on ne sait pas vraiment si ça va. Il y a ce sketch de... c'est Pierre Palmade. Vous voyez ce sketch où il fait le politicien en disant ce que je veux être, c'est président, je vais assumer le fait de dire je ne sais pas où on va, je ne sais pas ce qui va se passer, j'en ai aucune idée, on va tester des trucs et on va voir si ça va réussir. Évidemment, c'est tout sauf sexy comme communication. Et il dit on ne sait pas où on va, mais au moins je suis honnête de le reconnaître. C'est ici un peu le principe de ces trois éléments-là. Mais voilà, on va sûrement reparler de cette communication. Des gens comme Trump ou des gens comme vous avez cité s'engouffrent dans cette simplicité, cette certitude et ce déterminisme qui est très plaisant pour notre cerveau. Je ne vais pas aller plus loin, comme ça je tiens aussi mes 15 minutes. Et après, évidemment, on peut en discuter avec grand plaisir.
Ok, merci. Merci beaucoup à tous les deux. J'avais dit que j'avais prévu quelques questions et donc, si vous me le permettez, je vais commencer, ouvrir le bal et poser peut-être deux questions à nos intervenants avant de vous laisser vous exprimer. Peut-être une première question, c'est donc... on voit depuis quelques années une multiplication des vérités. Moi, j'ai l'impression que... les événements du 11 septembre, les attaques du 11 septembre et l'avènement du numérique sont en tout cas deux facteurs qui contribuent à cette multiplication des vérités. Donc chacune aujourd'hui peut trouver confirmation de ses intuitions via différents médias, les réseaux sociaux, etc. et se renforcer dans ce qu'il pense. Je me demande, est-ce que c'est forcément un problème aujourd'hui? Est-ce que vous aussi, vous voyez des événements qui ont renforcé cette multiplication des vérités? Et peut-être vous y avez un peu répondu, mais comment nos vérités, nos croyances se construisent-elles? Mais je dirais que vous y avez partiellement répondu.
Je vais peut-être commencer par la deuxième question, parce qu'elle a l'air de conditionner la première. Donc, effectivement, comment nos vérités, ou plutôt, je vais prendre nos croyances, se construisent-elles? Ça, c'est une chose assez importante, parce que c'est vrai que j'ai parlé de la croyance, mais je n'ai pas parlé de comment elle advient. Il faut garder à l'esprit que, humains, on est spontanément des êtres de croyance, et on forme d'abord nos croyances simples, spontanément, sans y réfléchir. Si je regarde maintenant dehors, je forme automatiquement la croyance qu'il ne pleut pas. Je n'ai pas besoin de la mettre en moi, je n'ai pas besoin de la travailler. J'ai automatiquement, en ouvrant les yeux ici, la croyance qu'il y a des gens devant moi. J'ai automatiquement la croyance, dès que je vois cette gourde, que j'ai une gourde bleue devant moi. Et on a une prédisposition donc, à former des croyances immédiatement, et en particulier des croyances vraies, ou majoritairement vraies. De nouveau, Régis en a parlé avec la dimensionnalité. Dans notre environnement immédiat, de notre perception immédiate, on est bien câblé, et on a été bien câblé évolutionnairement, pour former massivement des croyances plutôt vraies sur notre environnement immédiat. Okay. Mais il n'empêche qu'aussitôt qu'évidemment on va parler de croyances plus complexes, de croyances sur des objets plus diffus, la différence entre météo et climat était très bonne à cet égard. Le cas de la météo, je le forme une croyance vraie presque immédiatement. D'accord. Par contre, une croyance sur quelque chose d'aussi diffus, inaccessible que le climat, que sur la forme de la Terre, voilà, immédiatement on voit qu'elle est plate, mais en fait il faut regarder plus loin pour voir qu'elle ne l'est pas. Et de manière générale, la plupart des croyances à connotation scientifique, quand on parle de vaccins, c'est pareil, c'est pas un truc immédiat. Mais pour ces croyances-là, par contre, c'est pas immédiat. Et là, il faut médier par des entreprises. Je montre l'écran parce que je l'avais écrit là avec de la justification. Il faut commencer à développer des très créatifs sur des moyens d'accéder justement. Et là, ça demande plutôt de construire patiemment, je dirais, ces croyances plus complexes qui peuvent devenir des connaissances et qui demandent là pour le coup. Et c'est précisément dans cet interstice-là que vont pouvoir intervenir des gens ou des personnes mal intentionnées qui vont essayer de faire dérailler le train. Mais pour ce qui est de la croyance immédiate, ça j'ai envie de dire, nous sommes des êtres de croyance et de vérité par défaut, d'accord, pour ce qui est de nos environs immédiats. Okay. Et alors, je rebondis sur la deuxième partie de la question, et puis, qui était plutôt sur est-ce qu'on voit plus aujourd'hui avec évidemment, il y a une chose qui est aussi très importante de garder à l'esprit, c'est que des croyances de tout type, des croyances de type complotiste, des croyances de type mainstream et pas mainstream, ça a toujours existé. Donc, c'est pas du tout le fruit de notre époque. J'en ai parlé un peu en disant le complotisme aujourd'hui, c'est la version du scepticisme, mais grosso modo, des croyances dans le surnaturel, des croyances, on va dire, déviantes par rapport à ce qui serait une vision reçue, qui n'est pas nécessairement la vérité, hein, mais il y en a toujours eu. Les baromètres, parce qu'il y a des baromètres qui évaluent le degré de croyance des gens que nous sommes dans nos sociétés, ils sont assez stables au fil du temps. Donc il n'y a pas d'élévation. On croit autant aujourd'hui en surnaturel qu'hier. Il y a autant de complotistes probablement aujourd'hui qu'hier. La grosse différence, c'est qu'ils sont plus visibles. Donc on a l'impression qu'il y en a plus. Et ils sont plus visibles pourquoi? Parce que le contexte informationnel autour de nous, pour le coup, il a changé. Depuis les années 2000, Internet, les réseaux sociaux ont rendu visible, et on passe quand même beaucoup plus de temps à consommer de l'information sur des écrans maintenant qu'évidemment il y a 30 ans. Et donc on est confronté à ces croyances qui autrefois, au café du commerce, on avait un complotiste qui parlait un peu de sa théorie du complot et tout le monde disait « Oui, t'es gentil, Roger, c'est ton personnage. » Robert, t'es gentil, mais ne nous embête pas avec ça. Alors que maintenant, les Robert, pour le stéréotype un peu, mais les complotistes de tous bords, ils peuvent se retrouver maintenant. Ils peuvent créer des communautés, ils peuvent atteindre une masse critique et du coup et avoir une certaine parole dans le débat public. Et donc, l'information devient disponible, là où elle n'était pas nécessairement disponible. On peut passer notre vie sans jamais avoir croisé un complotiste. Maintenant qu'on a accès à tout, ici, tout le temps, on ne peut plus passer nos vies sans avoir accès à un complotiste. Et donc, du coup, l'information étant disponible, elle va flatter un biais dont Régis a parlé, enfin, le biais de confirmation en particulier, il n'a pas nommé celui-là, mais qui fait que si l'information, elle est disponible, si toutes les croyances sont là, elles sont toutes disponibles à nous, on va avoir une tendance à sélectionner celles qui nous intéressent, évidemment. Avant, quand elles n'étaient pas disponibles, on ne pouvait même pas être conscient qu'elles étaient là. Mais maintenant, on va avoir cette tendance, et je crois que Régis l'a bien dit, cette appétence de notre cerveau qui aime bien certaines choses, hein, par notre culture ou ce genre de choses. On va se dire, moi, j'ai un attrait pour ça, et je vais, grâce à cet outil, trouver des gens qui pensent comme moi et qui vont me conforter dans cette croyance. Ça, c'est peut-être quelque chose de plus inédit par rapport à une époque où on n'avait pas accès à toute cette information.
Oui, je suis d'accord avec tout ce que tu as mentionné. Il y a aussi sur les questions de société, outre le fait de savoir si quelque chose est vrai ou ne l'est pas, il y a des questions pour lesquelles on ne peut même pas déterminer ce qui est vrai, ce qui n'est pas, parce qu'en fait, il n'y a pas fondamentalement de vérité ou de fausseté par rapport à des sujets qui sont discutés, ce qu'on appelle les questions socialement vives, pour le coup. Par exemple, les questions liées à la transition écologique. Est-ce qu'il y a un bon moyen de faire une transition écologique ou un bon moyen de... Il va y avoir une multiplicité de points de vue. Alors, derrière cette multiplicité de points de vue, évidemment, chacun va invoquer des éléments qu'on pourrait considérer comme étant vrais ou faux en fonction, mais il y a des questions de société pour lesquelles on ne peut pas avoir de réponse algorithmique et pour lesquelles, quand bien même on aurait une espèce de connaissance parfaite du monde, il ne peut pas y avoir de réponse algorithmique. Si par exemple, et je vais prendre des sujets chauds comme la transition énergétique, si je dis tiens, il faut construire une centrale nucléaire, je peux dire le nucléaire, c'est donner une patate chaude pour les générations futures, mais ça permet quand même d'avoir une autonomie autonomie énergétique dans un contexte géostratégique qui est compliqué. Oui, mais en même temps, par rapport à une énergie qui dégage du carbone. Donc, on voit qu'il peut y avoir en tout cas plein de discussions qui vont reposer sur des éléments qui peuvent être vrais ou qui peuvent être faux, mais il n'y a pas de réponse algorithmique à ce qui serait le mieux ou le moins bien. Ça va être aussi chacun en fonction de ses idées. Et par rapport à des raisons beaucoup, enfin des éléments beaucoup plus contemporains. C'est qu'au niveau de l'échange des informations, et ça, vous le voyez, les informations vont relativement vite. Et en fait, on va jouer sur l'idée d'une information qui doit être émotionnellement impactante. Et à nouveau, la structure de notre cerveau n'a pas évolué aussi vite que les technologies de l'information et de la communication. Et donc, les informations qui vont vite, qui sont chargées émotionnellement, vont flatter beaucoup plus notre cerveau que celles qui prennent du temps. Alors qu'avant, l'information s'échangeait par de la discussion ou peut-être par un article de journal. On prenait le temps de lire le journal, on prenait 5 minutes pour lire un article autour d'un sujet. Aujourd'hui, on a 10 secondes pour parler sur un sujet. Et donc, la communication politique, c'est aussi basé sur ça. Il faut quelque chose qui soit impactant, qui aille vite, qui parle à notre système 1, qui montre que ma case de l'échiquier d'Adelson, elle est blanche. Vous voulez mesurer la différence de couleur entre le B et le A? On ne vous laisse pas le temps. Je vous ai dit que la case était blanche. Croyez-le qu'elle est blanche et on passe à l'illusion d'optique suivante. Et c'est ainsi que fonctionne cette espèce de champ de bataille informationnel, puisque les informations ne sont pas juste isolées, mais elles sont prises dans une bataille de l'information. C'est un marché concurrentiel où seule l'information la plus forte survit et fait mourir les autres. On a beau le déplorer, malheureusement, c'est comme ça que fonctionne actuellement le marché de l'information avec les technologies de l'information et de la communication.
Ok, merci. Et puis une deuxième question, au cœur de tout ce sujet, il y a aussi cette notion d'esprit critique à laquelle tu as consacré un spectacle. C'est une notion qu'on invoque beaucoup, qui se construit dès l'école, qu'on juge importante et nécessaire justement pour parvenir à distinguer les informations vraies des informations fausses. Est-ce que vous pourriez pour autant la définir quand même? Et est-ce que selon vous, renforcer sa pratique, son enseignement est une des clés pour permettre aux jeunes et même à tout un chacun en fait, de s'en sortir davantage face à la multiplicité des informations.
J'aime bien cette question parce que définir l'esprit critique, ça me rappelle avec Céline Schopfer, il y avait un séminaire à Genève avec tous des gens autour de l'esprit critique et à la fin de la journée, on s'est dit, en fait, on ne sait toujours pas comment on définit l'esprit critique. Alors, il y a beaucoup de définitions de l'esprit critique. Soit la définition va être très large, elle va être facilement transposable mais peu opérationnalisable, soit la définition va être très ciblée, elle va être facilement opérationnalisable mais très peu transposable. Moi, je me réfère à deux définitions et je suis intéressé pour savoir, toi, quelles sont celles-ci. Moi, d'une part, c'est celle de Matthew Lipman qui nous dit que l'esprit critique, c'est le fait d'avoir des critères qui nous permettent de poser des jugements dans un processus qui soit autocorrectif et qui prenne en compte le contexte. Alors, une fois qu'on a ça, c'est super, mais on va se poser la question de savoir mais quels sont les critères qu'on va utiliser pour porter des jugements. Ça, c'est la première chose. Et la seconde, c'est finalement, exercer son esprit critique, c'est un petit peu comme jouer du piano. Il faut deux choses. Si vous voulez jouer du piano, il faut déjà avoir la compétence pour jouer du piano. Et puis, il faut aussi avoir l'envie d'aller sur son piano, ouvrir le piano et s'y mettre. Si vous êtes très compétent pour jouer du piano, mais que vous n'avez pas envie de jouer du piano, votre piano, il ne va pas sonner. À l'inverse, vous pouvez avoir très envie de jouer du piano. Si vous n'avez jamais appris le piano, vous ne saurez toujours pas jouer du piano. Et donc, au niveau de la didactique de la pensée critique, on dit que la pensée critique, généralement, il y a tout un tas de compétences à avoir d'un côté. Alors ça, il y a aussi des listes de compétences qui se baladent. Par exemple, reconnaître un bon argument, reconnaître une bonne source, etc. etc. Et toute une liste également de dispositions, c'est-à-dire un état d'esprit, que ce soit l'ouverture d'esprit, que ce soit l'humilité. Et en fait, compétences et dispositions ensemble vont armer le penseur critique pour, par exemple, avoir une forme de vertu qui est l'humilité intellectuelle, c'est-à-dire la capacité à remettre en question ses propres connaissances, mais qui implique de pouvoir déjà les identifier les autres types de connaissances sur le sujet et avoir cette disposition, à un moment donné, mettre une soupape sur ses propres connaissances. Donc, ce qui implique à la fois d'être armé d'un point de vue des compétences, mais aussi d'être armé d'un point de vue, d'une forme de désir, de disposition à pratiquer la pensée critique. Voilà, maintenant pour les critères liés à la pensée critique, peut-être que là tu...
Oui, je n'ai pas spécialement de liste de critères, mais je te rejoins sur les définitions, et c'est bien que tu mentionnes, il a mentionné Céline Schopfer, qui est quelqu'un qui a fait une thèse sur c'est quoi l'esprit critique, et qui effectivement arrive avec 17 définitions, et puis essaie, donc c'est pour vous montrer la complexité, c'est normal, c'est une notion, c'est comme essayer de définir la science, comme essayer de définir des choses évidemment pas évidentes. Moi j'aime bien une définition alors différente, mais ça illustre le fait que du rapport sur l'esprit critique de Pasquinelli et Bronner, enfin qui n'est pas de eux, mais c'est d'un groupe qu'ils ont chapeauté, qui a été mandaté par l'éducation nationale en France, justement pour savoir c'est quoi cette chose, et après, c'est la deuxième partie de ta question, je pense, comment est-ce qu'on fait pour l'enseigner, est-ce qu'il faut l'enseigner et comment est-ce qu'on fait. Et la définition à laquelle ils arrivent, elle ne fait pas trop l'aspect sur les compétences, elle fait plutôt l'aspect sur ce qu'il faut croire, c'est plutôt lié à l'épistémologie pour le coup. Ils vont dire, une personne qui est critique, c'est une personne qui a la faculté de proportionner correctement sa confiance, parce qu'ils pensent que l'esprit critique, c'est une question de confiance, c'est de proportionner correctement sa confiance à la fiabilité des discours qu'on rencontre. Donc quand on rencontre toute une série de discours, et je vais prendre pour caricaturer les platistes qui disent que la Terre est plate, on va dire, et les rondistes, j'imagine que nous sommes plutôt ici, qui disent que la Terre est grosso modo ronde, quelqu'un de critique, c'est quelqu'un qui va dire, puisque le discours platiste, sans nécessairement être faux, mais pas très fiable, on ne va pas lui donner trop de confiance, alors que le discours rondiste, étant donné le faisceau de preuves, étant donné la fiabilité, on va donner plus de confiance. Et la personne qui est capable de faire ce calcul, si vous voulez, de donner la bonne quantité de confiance au discours, ce serait la personne critique. Mais évidemment, ça balaye sous le tapis la question que Régis a dit. Comment est-ce qu'on sait qu'un discours est fiable? Évidemment, c'est ça l'enjeu. Et là, il y a des critères pour diagnostiquer qu'est-ce qui fait. Et ça s'apprend. Il y a des listes de critères, et je ne veux pas vous embêter ici avec une liste de critères. Par contre, la deuxième partie de la question, c'est est-ce que c'est important de former les gens à l'esprit critique? Et comment est-ce qu'on s'y prend? Et est-ce que ça suffit? Et ça, je pense que c'est une question particulièrement importante. Je pense que c'est enfoncer des portes ouvertes que de dire l'esprit critique, c'est bien. Et les gens qui ont plus d'esprit critique, c'est mieux que ceux qui en ont moins. Et donc, évidemment, il faut qu'on organise notre enseignement pour favoriser l'épanouissement de l'esprit critique. Je pense qu'on est tous d'accord. Je dis, c'est pas une banalité, c'est vrai, je pense que c'est vrai. Mais on est tous d'accord. Il n'y a pas un parti à gauche, à droite, un machin qui dirait, à part, on pourrait penser que certains partis malhonnêtes pourraient penser qu'ils auront intérêt à avoir des citoyens pas critiques. Mais imaginons que si on veut faire le travail correctement, on aimerait bien favoriser cette, quelle que soit la façon dont on le définit, on voudrait bien que nos populations, les jeunes, mais les moins jeunes aussi, soient majoritairement mieux dotées d'un esprit critique plutôt que pas assez. Ça, je crois qu'on est assez tous d'accord. Mais une chose qui, à mon sens, est particulièrement importante et qu'on omet souvent, c'est que je suis de ceux qui pensent, et je pense que ça rejoint ce que Régis a raconté avec les espaces informationnels autour de nous, c'est que ça ne suffit pas. C'est-à-dire que former à l'esprit critique, quand bien même on y arriverait vraiment bien, quand bien même on ferait les meilleures formations à l'esprit critique, et je pense que nos formations ne sont pas si mauvaises en fait. Je pense qu'en fait notre système éducatif, il n'est certainement pas parfait, mais je pense que grosso modo il fait quand même assez bien le job, et on peut féliciter les enseignants, je crois qu'il y en a pas quelques-uns parmi nous, pour avoir fait ce travail correctement, qui même sans faire des moments à l'esprit critique à l'école, participent dans leur formation, dans les cours de français, dans les cours de langue, dans les cours d'histoire. Quelque part on fait toutes et tous un peu de la formation à l'esprit critique, mais je pense que quand bien même on le ferait idéalement, et certes il y a une marge de manœuvre pour l'améliorer, ça ne suffirait pas, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on vit dans des espaces informationnels qui sont pollués et qui laissent s'épanouir, en fait, tout ce qui est discours, on va dire, charlatan, complotiste dans le mauvais sens du terme, parce que, j'insiste, il y a des discours complotistes légitimes, il y a des vrais complots, ça existe des complots, d'accord? Donc on peut, quand on veut dire qu'il existe un complot, c'est pas nécessairement une mauvaise chose, d'accord? Mais quand je prends complotiste dans le sens, on va dire, les reptiliens, quelque chose d'assez frivole de ce genre de choses, je pense que nos espaces informationnels sont tellement conçus aujourd'hui pour favoriser l'épanouissement, en fait, de charlatanerie, de manipulation, de discours mensongers politiques et ce genre de choses, il n'y a pas de compte à rencontrer. C'est ce qu'on a invité dernièrement à Namur, Clément Viktorovitch appelle la logocratie, c'est vraiment le mensonge ne coûte plus rien, maintenant on peut mentir éhontément et de toute façon on n'a pas à en payer le prix derrière. Mais je pense que tant que les environnements médiatiques et politiques sont comme ça, on a beau être bien formé à l'esprit critique, on est quand même noyé et on est quand même trompé. Et je ne suis pas de ceux qui vont remettre la responsabilité sur les citoyens en disant « vous n'avez pas assez d'esprit critique, vous devriez mieux vous informer, vous devriez mieux réfléchir, vous devriez comparer vos sources. » Si on est dans un environnement qui est comme celui-là, c'est légitime d'être trompé. On est victime d'un système qui est hostile à l'épanouissement de l'esprit critique. Et ça, je pense que tant qu'on n'a pas assainit un peu ce système, et alors il y a des manières de le faire, hein, mais tant que par exemple il n'y a pas un coût qui est imposé aux mensonges éhontés, par exemple, je pense qu'on a beau faire toutes les formations, malheureusement, on a beau faire toutes les formations, et il faut continuer à faire des formations à l'esprit critique, l'instant critique c'est important, je ne suis pas en train de dire le contraire, mais que c'est un levier parmi beaucoup d'autres, et je pense qu'au niveau collectif, il y a quelque chose à faire également là-dessus.
Ok. Merci beaucoup pour vos réponses. Je propose de vous donner la parole, donc si vous avez, et peut-être d'allumer la lumière aussi, parce que il fait fort sombre. Donc à vos questions, réactions.
Au sens figuré.
Vraiment très très chouette ce que j'ai entendu. Un truc qui m'est vraiment venu régulièrement à l'esprit, c'est la pondération de ces vérités ou des faits. Et là, il y a quelque chose qui est pour moi hautement subjectif. Je pense au journal télévisé. Typiquement, le journalisme se prévaut d'objectiver, de relater des faits, et il s'en fait une éthique. Et on pourrait dire effectivement ce qui passe au JT est une croyance vraie. On est sur la plus vraie possible. On a des bonnes raisons de la croire vraie. Ce qui me gêne, c'est dans la pondération et qu'est-ce qui se trouve dans le JT. On est surface à une succession de faits. Et pourtant, il y a quelque chose de hautement subjectif dans la pondération dont on va amener les faits. Quels sont ceux sur lesquels on va communiquer beaucoup? Quels sont ceux sur lesquels on ne va pas s'intéresser? Et donc, ils vont disparaître de la perception du public. Et au-delà de l'esprit critique, parce que moi, je fais partie des gens qui pensent que le néocortex est encore fort peu développé. On a une grosse image de nous-mêmes en tant qu'espèce humaine, mais je pense que finalement, le cerveau humain rame. On rame beaucoup, beaucoup, parce qu'effectivement, le monde est tellement multiple, complexe et indescriptible que moi, ce qui me dérange, c'est la pondération. Pourquoi, quand deux faits sont effectivement vrais, pourquoi pour celui-ci, on va passer du temps, on va le décrypter, on va amener des spécialistes de la question, et sur d'autres faits qui sont également vrais, on ne va pas en parler. Donc pour moi, je pense que c'est... Parce que de l'esprit critique sur des faits sur lesquels on communique en masse et perpétuellement, c'est peut-être finalement pas aussi important que de comprendre pourquoi on pondère de cette façon-là la description de différents faits, quand d'autres pondéreraient tout à fait différemment. Voilà.
Ok, merci.
Peut-être
une réaction directe.
Un petit point rapide, c'est une très bonne question que vous avez et je vous rejoins complètement. Je pense qu'il ne faut pas oublier que dans la façon dont moi, en l'occurrence, j'ai apporté les notions croyances, etc., c'est un peu fantasmagorique, c'est-à-dire que c'est une situation idéale et parfaite, où on aurait une parole qui arrive, et puis on aurait nous les destinataires, et elle arrive directement. Mais ce que vous illustrez ici, c'est qu'en fait, il y a un médium entre les deux, c'est les médias, en fait, hein, s'il y a un intermédiaire qui, évidemment, entre les faits qui sont là et nous, c'est eux qui font le travail de nous les raconter. D'accord ? Donc ça, c'est une relation à trois termes. Il ne faut pas oublier qu'il y a ce terme intermédiaire. Et ce terme intermédiaire, il fonctionne un peu comme une lentille déformante. C'est-à-dire qu'évidemment, les journalistes, ils ne sont pas objectifs. Ça n'existe pas, l'objectivité parfaite. C'est pareil pour les scientifiques. Hein. L'objectivité parfaite, ça n'existe pas. C'est une valeur vers laquelle ils aspirent. Ils essayent d'être majoritairement objectifs, mais ils ne le sont pas. Ils le reconnaissent eux-mêmes. Ils ne sont pas parfaitement neutres. Ils essayent d'être neutres. Et ils recoupent leurs informations pour limiter leurs biais, etc. Ça, mais c'est jamais parfait. Et donc, on sait bien que tout média, qu'il soit un JT, que ce soit, je sais pas, en Belgique, c'est RTBF, RTL, en TF1, en France 2, on sait bien, il y a même des études qui montrent, dis-moi quel JT tu regardes et je dirai quel est ton bord politique. On sait que les JT, on sait que les journaux écrits, on sait que sont teintés et déforment l'information dans un sens plutôt que dans l'autre. Comme vous l'avez dit, ils vont sélectionner celle-là plutôt que celle-là, ils vont mettre en avant celle-là plutôt que celle-là, sans penser qu'ils vont mentir. Il y a des mensonges aussi, mais sans penser qu'ils vont aller jusqu'à ne pas être sincères. En étant sincère, on peut quand même biaiser l'information d'une certaine façon. Mais donc, on peut déformer dans une direction ou dans l'autre. Et ça, c'est à nous aussi, en tant que récepteurs du message, c'est pour ça qu'on fait de l'éducation aux médias, hein, d'ailleurs, chez les jeunes, pour leur apprendre que ce médium y déforme potentiellement, et que c'est pour ça que c'est important de multiplier les sources, de ne pas regarder un JT, mais de regarder plusieurs, de ne pas se contenter d'un journal, mais de regarder plusieurs. Si on est plutôt, on va dire ici, quand même, plutôt de gauche, c'est quand même pas mal d'aller regarder de temps en temps ce qui se dit dans la presse de droite, pour ne pas rester dans notre bulle, justement. Ça peut être intéressant, c'est comme c'est par le challenge qu'évidemment, on va voir qu'il y a des biais, parce que Régis l'a dit, il n'y a pas un parti qui est libre de tout biais, inévitablement. On est tous déformants d'une manière ou d'une autre, certains moins que d'autres, on pourrait le penser aussi. D'accord ? Mais donc ça, je pense que c'est garder à l'esprit que oui, il y a un médium, ce médium est déformant, il faut en avoir conscience pour limiter les effets pervers que ça peut avoir sur l'accès qui nous intéresse au bout du compte au fait qui est caché derrière.
Moi, j'aime bien l'idée de reparler du médium qui transmet l'information. Donc l'information, et je reviens moi sur ma tripartition, le monde étant complexe, incertain et stochastique, en fait, le but aussi d'un journaliste, ça va être de traiter tous ces éléments-là pour les rendre accessibles, donc transformer cette complexité, cette incertitude et ce hasard pour le rendre assimilable par la personne aussi qui va regarder l'information. Et donc, quand bien même il y a un médium qui s'intercale entre le monde et la personne, personne qui reçoit l'information qui a du monde, effectivement, l'information ne peut plus être neutre. Et moi, je reviens alors sur cette ligne de crête entre vertu de transformer l'information pour la rendre accessible, avec bonne foi, en essayant de restituer de façon, ok, simplifiée, mais la plus exacte possible, l'état du monde, et à un moment donné, ce travers qui retomberait dans une simplification à outrance. Je vais prendre un exemple, et là, qui va être politique pour le coup, mais vu d'où je parle, vous serez probablement d'accord avec moi. Quand je vois que certains partis politiques communiquent par exemple sur des chiffres du chômage en disant « Regardez, nous avons fait diminuer le chômage de autant », c'est très simple à comprendre. Et en fait, les gens peuvent se dire « Bravo, nous, on est merveilleux, etc. » Alors que derrière ça, on se rend compte que oui, les chiffres ont peut-être diminué, mais c'est en raison de contrats très précaires. Un contrat d'un jour compte comme ayant fait diminuer le chômage. L'exclusion compte comme ayant fait diminuer le chômage. Donc la situation est beaucoup plus complexe, en fait, ce qu'il y a derrière. Alors, à nouveau, c'est toujours cette question de si je prends cette information et que moi, en tant que médium, j'essaye de la rendre accessible pour qu'elle tombe dans ce canon d'un journal télévisé qui doit aller vite, qui doit faire passer de l'info, qui doit toucher aussi le plus de monde, et aussi la loi de l'offre et de la demande. Il faut parler de ce que les gens ont envie qu'on parle à la télévision. Eh bien, à ce moment-là, il y a vraiment juste cette idée de, attention, de rester sur cette droite ligne, en d'un côté, vertueusement, je communique quel est l'état du monde, et le vice qui est de dire, je transforme cet état du monde pour, soit, à nouveau, je n'ai pas envie d'y mettre de la mauvaise intention, des personnes peuvent transformer cette vision du monde, parfois de façon tout à fait de bonne foi. L'erreur ou l'interprétation du monde n'est pas nécessairement associée à quelque chose de volontaire. Sinon, là, on tombe plutôt dans la méfiance, voire le soupçon, qui sont des attitudes dont aussi Olivier pourrait vous parler longuement, mais voilà.
Oui, merci beaucoup pour votre présentation. Moi, je m'interroge en fait sur l'origine des clivages idéologiques ou la polarisation qu'on peut avoir par rapport à l'information, etc. Je me demande si c'est tant d'abord un rapport à la vérité, l'origine de ces clivages, ou bien si c'est plutôt, là je raisonne plutôt en marxiste, marxiste écolo, c'est comme ça que je me définis, marxiste hétérodoxe. J'ai l'impression qu'en fait les idées viennent d'abord en fait des positions matérielles différentes qu'on a dans la société, et le fait qu'on soit situé différemment matériellement en fait dans la société fait que bien souvent ben, on développe en fait un rapport au monde différent. Donc entre quelqu'un, un patron, quelqu'un qui a des actions dans une multinationale qui gagne énormément, eh bien, généralement il va développer un rapport au monde qui est articulé à ses intérêts propres, et quelqu'un qui est salarié dans une entreprise qui n'a que sa force de travail, eh bien, généralement va avoir plutôt tendance en fait, à voter à gauche ou avoir une représentation du monde plutôt liée à gauche pour aussi défendre ses intérêts-là. Et donc, je pense que ça, c'est essentiel. Alors, je pense que ce n'est pas la seule chose qui affecte notre rapport au monde, mais je pense qu'il est prédéterminant quand même. En fait, et je pense que c'est en luttant, par exemple, contre les inégalités sociales, par exemple, qu'à un moment donné, on va pouvoir trouver des terrains d'entente pour une société commune. Mais là, avec un monde où les inégalités explosent complètement, eh ben forcément, en fait, le monde se polarise aussi, ben parce qu'en en fait, on n'est pas dans la même vie, quoi. On ne vit pas la même chose. Et puis la deuxième chose, c'est aussi, je me demande, est-ce que c'est vraiment souhaitable en fait qu'on réduise en fait l'ensemble des clivages idéologiques. Je pense que dans une démocratie, en fait, forcément, il y a des rapports au monde en fait qui s'affrontent, et ça fait partie en fait de la vitalité d'une société en fait de ne pas arriver toujours à un point d'entente sur tout, et que forcément il y a des tensions à gérer, mais il y a une part de ces tensions en fait qui sont normales, j'ai l'impression, dans une société saine. Ouais.
Oui. Moi, je veux bien réagir sur deux points. Le premier, en fait, ce qui est mentionné là, ce sont les limites culturelles dont j'ai parlé. Le fait qu'effectivement, il y a un déterminisme qui oriente notre vision sur le monde. En matière de pensée critique, ce sur quoi on travaille énormément en école, c'est la capacité à se décentrer ou la capacité à l'empathie, mais qui est donc la capacité à sortir de son point de vue unique pour essayer d'embrasser le point de vue d'autres personnes. Alors, on n'est pas les premiers à faire ça. Je prends l'exemple du livre Éric Emmanuel Schmitt, quand il a fait sur l'histoire d'Adolf Hitler, en disant, tiens, et s'il avait pour essayer de comprendre même des personnages les plus horribles dans un monde, parfois moi j'essaye de me dire, tiens, et si je me mettais dans la tête de Donald Trump, comment est-ce que j'arriverais à percevoir le monde, et est-ce que j'arriverais à me dire que le monde est organisé comme ça? C'est très difficile à faire, j'y arrive pas beaucoup, mais j'essaye quand même de le faire par exercice intellectuel. Parce que bloqué dans nos limites, il faut bien se dire une chose, c'est qu'on pense tous avoir raison et être dans le vrai par rapport au point de vue dans lequel on s'exprime. Et de bonne foi, soi. Dès lors qu'on a, on a une vision du monde, on a une vision sincère de ce monde. Quand effectivement Donald Trump se dit bah, il faut construire à un moment donné un mur pour empêcher les migrants de passer, de son point de vue, peut-être que lui se dit je fais quelque chose de fondamentalement magnifique et bien et merci le monde. Alors qu'évidemment, de notre point de vue, ça ne va pas être le cas. Donc cette faculté à pouvoir se décentrer, à essayer de comprendre le point de vue de l'autre, je n'ai pas dit par là qu'il fallait nécessairement adopter le point de vue de l'autre. Je peux très bien comprendre le point de vue de l'autre, mais dire je ne suis pas en fait d'accord avec ce point de vue, quand bien même je comprends les conditions qui ont fait que ce point de vue peut à un moment donné émerger dans ta situation. Mais donc au moins avoir cette capacité à se dire j'ai des limites culturelles, je sais que je suis dans ces limites culturelles, cette capacité à prendre du recul, avoir ce point de vue méta sur soi est déjà en soi une compétence excessivement importante pour la pensée critique, parce que ça permet déjà de pas être son propre piège et de pas non plus être dans l'incompréhension de ce qui se passe chez l'autre. Et cette posture d'entre-deux, de mise à distance de soi-même et de compréhension de l'autre dans quelque chose de l'ordre d'une démarche de bonne foi, sont des compétences et des attitudes qui sont fondamentales lorsqu'on essaye de travailler l'esprit critique.
Ouais, je rejoins tout à fait. J'ajoute un petit élément d'information pour dire que je rejoins tout à fait ce que Régis dit. Et sur la deuxième partie de la question, je pense que c'est assez important de dire que oui, tout à fait. Je pense que c'est enfoncer une porte ouverte que de dire dans une démocratie, il faut une multiplicité de points de vue. C'est ça qui crée la richesse de l'avancement dans la discussion. C'est même pareil pour quelque chose qui n'est pas aussi démocratique qu'un débat scientifique où il faut de la controverse. En fait, il faut parce que c'est comme ça qu'on avance. Si on n'a pas de controverse, il n'y a pas de moteur de challenge, il n'y a pas de moteur de dépassement. Donc il faut qu'il y ait évidemment des points de vue différents, mais il faut un espace dans lequel ces points de vue peuvent dialoguer. Et il faut se rappeler que l'espace public et le débat public, mais un débat scientifique c'est pareil, mais un débat public c'est un débat argumentatif, donc c'est un débat qui est fondé sur des arguments, et en théorie de l'argumentation, qui est élémentaire, c'est qu'on ne peut pas argumenter si on n'admet pas avec son interlocuteur des prémices communes. Et à partir du moment où il n'y a plus de prémices communes, l'argumentation ça ne sert même plus à rien, c'est juste deux messages qui font comme ça. Et donc ça rejoint la deuxième partie de la question, c'est-à-dire qu'il faut bien sûr du désaccord, mais du désaccord toujours sur un fond d'accord. Et dans les faits, on va penser à un parti de gauche en Belgique avec un parti de droite. Certes, ils ne sont pas d'accord sur toute une série de points, mais il y a quand même des points sur lesquels ils convergent, qui rend possible le fait qu'ils peuvent discuter les uns avec les autres, même si parfois ça paraît. Mais alors évidemment, la question, à partir du moment où on voit des différences avec les ultra-riches qui deviennent tellement grandes, il ne faudrait pas qu'on arrive à un point, et ça c'est ce que beaucoup de politologues craignent, c'est qu'on arrive à un point où les différences deviennent tellement importantes qu'on ne trouvera plus ce socle commun. Comme vous l'avez dit, je pense qu'on ne vit plus dans le même monde. Mais à partir du moment où on ne vit plus dans le même monde, là, il n'y a plus de débat démocratique possible. Ça, je pense que c'est clairement le danger. Et c'est pour ça que je pense aussi qu'une plus juste répartition des richesses, c'est une des clés de la sauvegarde même de la démocratie, tout à fait.
Moi, c'est quelque chose qui me vient quand je rencontre des gens et qu'on a des points de vue complètement différents. Je prends l'exemple, voilà, chez Écolo, on a lancé toute une campagne de porte-à-porte ici sur Namur parce qu'on voulait rencontrer des personnes. Et une des plus grosses difficultés qu'on rencontre, c'est quand on arrive, donc les gens nous catégorisent avec une étiquette. Et là où le débat est très difficile, c'est que les gens pensent, se sentent souvent, moi c'est mon sentiment, mais en insécurité. Que si on arrive avec un point de vue, ça veut forcément dire qu'on va essayer de balayer leur point de vue. Et donc à partir du moment où les gens ne se sentent pas en sécurité, on ne peut pas avoir un dialogue où on s'écoute. Et donc, enfin, moi, c'est une des premières choses, j'essaye de rassurer les personnes, je leur dis que je suis là pour discuter, pas forcément pour les convaincre. Et donc d'abord de sécuriser le lieu du débat, pour qu'il puisse y avoir un débat, mais comment est-ce qu'on peut réinstaurer ce sentiment de sécurité? Parce que quand j'entends des débats politiques, souvent on en est là, c'est des gens qui s'acharnent et limite s'entretuent, parce que justement, il n'y a pas de débat posé, parce que personne... Quand on a une opinion différente, les gens ont l'impression qu'on les attaque personnellement, sauf que ce n'est pas forcément le cas. Donc voilà, c'est comment est-ce qu'on pourrait réinstaurer ce climat ou trouver des pistes pour sécuriser?
Déjà, je trouve que c'est très riche ce que vous dites, et je trouve ça très impressionnant de voir que même quand on est estampillé avec un certain parti, on arrive avec une étiquette, avec la connotation qui vient avec, je trouve que c'est très riche de pouvoir dire « je ne suis pas là pour vous convaincre, je suis là pour discuter et de sécuriser la parole », comme vous avez dit, ça je pense que c'est important. On est tous d'accord pour dire qu'en fait, que quand on n'est pas volontiers chamboulé dans nos certitudes. C'est ce que Régis a dit, la pratique du décentrement, c'est sortir de ses points de vue pour les interroger, c'est une pratique très inconfortable. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas se décentrer, parce que c'est pas agréable de se décentrer. C'est pas agréable de dire bah, « tiens, si j'avais tort et que je devais reconfigurer ma... » Donc c'est vraiment un exercice mental, qui n'est pas qu'un exercice mental, peut-être un exercice social aussi, changer de parti, c'est parfois changer de communauté, d'appartenance. Par exemple, quelqu'un qui, j'invente, serait de gauche, deviendrait de droite ou inversement, c'est tout un réseau de vie qui change derrière. Donc inévitablement, ça, c'est pas quelque chose de confortable, donc il faut pas s'attendre à ce que les gens accueillent Je viens entre guillemets avec ma casquette, et si la personne qui vous ouvre n'est pas écolo, elle va dire, on va de nouveau essayer de m'attirer là-dedans, et moi ça, c'est pas quelque chose que j'ai envie, là je suis chez moi tranquillement. Et donc j'apprécie le fait que vous disiez, la première chose c'est de sécuriser l'endroit, c'est pour dire, voilà, en fait sachez que le but ici c'est simplement qu'on ait une discussion et qu'on peut se rejoindre malgré nos différences sur certains points, et on peut tolérer, ça je crois que c'est un message important, on peut tolérer qu'on va se quitter pas d'accord, mais on aura gagné quelque chose en sachant ce sur quoi on n'est pas d'accord, et on va gagner quelque chose en ayant entendu, parce que peut-être qu'en fait vous n'allez peut-être pas convaincre la personne de voter pour votre parti, mais peut-être que vous allez mettre en elle une étincelle de questionnement qui va, elle, faire son petit bonhomme de chemin. Je pense que c'est ça aussi un des enjeux de ce travail-là, j'imagine.
Oui, c'était un des enjeux, puis c'était aussi le fait de se relier aux personnes, parce que parfois on a notre point de vue, parce qu'on côtoie des personnes qui ont les mêmes valeurs, et ça ne veut pas dire que ça représente la totalité de la population. Donc c'était plutôt un travail de, en tant que parti dans l'opposition, oui. Nous, comment on peut aller chercher l'information sans passer à la fois par les médias, parce qu'il y a un certain point de vue, sans passer par le travail des partis qui ont les rênes et qui donnent leur point de vue. Mais en fait, le citoyen, lui, qu'est-ce que lui pense ? On peut pas, personne ne peut parler à la place de la personne.
Et je crois que vous avez raison sur un point.
C'est de refaire du lien, justement.
Il y a beaucoup d'études pour ça qui montrent, ça, Régis me corrigera si je dis une bêtise, mais qu'il n'y a pas de méthode plus efficace que dans l'interaction de proximité. C'est-à-dire que, et ça, les gens, la confiance, il n'y a rien à faire, ça ne vient pas gratuitement chez les humains. Et donc, à travers un écran où la personne n'est pas vraiment une personne, c'est un peu déshumanisé, ou à travers, le pire, un chat, où on ne voit même pas la personne, on n'a pas les codes derrière, il n'y a rien de plus riche que, comme une discussion ici, comme on a maintenant. C'est-à-dire des moments en temps long, humains, où on discute, et où en fait, on se rend compte que la personne face à nous, c'est pas juste un... C'est pour ça que les trolls sur les réseaux sociaux, ça marche tellement bien, parce qu'on ne voit pas un humain. C'est pareil, vous avez déjà, on avait toutes et tous, si vous conduisez une voiture, on a tendance à s'énerver beaucoup plus vite sur les autres automobilistes, qu'on ne s'énerverait que sur des humains, parce que, en fait, c'est face à une voiture qu'on s'énerve, c'est face à quelque chose qui est dépersonnifié, déshumanisé. Aussitôt qu'on se rappelle qu'en fait, dedans, c'est peut-être quelqu'un qui aussi a une vie, a aussi ceci, cela, et si on la voyait et qu'on sortait de notre voiture pour discuter, en fait, ça désamorcerait beaucoup d'animosité qu'on a vis-à-vis de l'objet. Donc je pense qu'il n'y a rien de mieux, à cet égard, je peux malheureusement pas vous aider beaucoup, de
merci.
Dire qu'en fait, c'est dans le contact
c'est
immédiat
que
c'est le plus efficace, en tout cas.
Mais t'as cité tous les points que je voulais citer.
Pardon.
Non, mais c'est. Et juste pour ramener effectivement juste une discussion, ça a un coût cognitif pour la personne aussi. En fait, c'est accepter de parfois avoir aussi une information qu'elle ne veut pas avoir. Je prends l'exemple, moi si j'ai quelqu'un qui est avec le label écolo qui vient vers moi, peut-être que je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie d'entendre que le monde dans lequel on est mal barré. Ça entraîne ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Et en fait, cette dissonance cognitive fait qu'on est dans un état vraiment de vulnérabilité et dans un état qui n'est pas agréable à vivre. Et donc, en fait, l'information, quand bien même elle est vraie, apportée de bonne foi, peut ne pas être agréable pour la personne. Et il y a un coût cognitif à la discussion, coût cognitif que je suis peut-être que j'ai pas envie de consacrer maintenant pour mille et une raisons. Et ce que disait Olivier aussi est très vrai, c'est que ce lieu de la discussion, et moi c'est la raison pour laquelle avec la conférence spectacle, j'ai choisi de faire du spectacle vivant, parce qu'on m'a dit, mais à l'heure d'Internet, pourquoi est-ce que tu fais du spectacle vivant? C'est complètement... Parce qu'au moins, les gens consacrent 1h10 dans une salle avec moi, on est physiquement présent, et même les discussions qui après ne sont jamais des discussions pleines d'animosité, alors que sur les réseaux sociaux, oui, parce qu'on est face à face, et revenir dans quelque chose d'incarné, revenir dans une discussion qui prend du temps, qui prend du... ça, évidemment, pour aiguiser son esprit critique, mais ça demande du temps, et le temps est une ressource qui est limitée, et pour laquelle également notre cerveau a un rapport très limité au temps qu'il peut consacrer pour un moment donné accéder à de l'information. Je ne peux pas lui dire, écoute, maintenant, Régis, pendant 72 heures, tu vas travailler non-stop à apprendre une matière. Non, mon cerveau, il va bugger à un moment donné. Et donc, c'est vraiment ces notions-là de coût cognitif, de dissonance cognitive, et de reprendre ce temps et cette lenteur qui est nécessairement liée au débat qu'on n'a pas nécessairement l'occasion de pouvoir avoir à des moments qui sont inopportuns. Et si des personnes disent « Ah, en fait, j'ai pas envie de déstabiliser, j'ai pas envie de dépenser ce coût aujourd'hui, je n'ai pas le temps », eh bien, je pense qu'à un moment donné, il faut se dire « Ah, ben en fait, oui, quand bien même vous auriez très envie de discuter avec elle. » Mais par exemple, ici, c'est facile, on est tous d'accord de payer le coût même s'il n'y a pas un coût financier, le coût de se déplacer, de venir dans un même lieu, de consacrer du temps à être ici ensemble, c'est-à-dire qu'on ne consacre pas notre temps à faire autre chose, parce qu'on considère qu'il y a un énorme bénéfice à se retrouver ici. Mais peut-être que les gens n'ont pas envie de payer ce coût quand on venait chez eux.
Merci. Ouais, ça m'aide beaucoup, parce que plein de fois, je me dis, c'est fou, on a l'impression qu'on agresse les gens, alors qu'en fait, on vient juste les écouter. Donc, qu'est-ce que ça vient toucher chez eux et pourquoi, alors qu'on n'a aucune... que soit même en dehors d'écolo, je veux dire, mais de sentir souvent les gens agressés et qui n'ont pas envie d'avoir un débat, pourquoi on est juste en train d'essayer de s'écouter, il y a plein de points de vue, pourquoi on ne peut pas accepter
après,
ça.
Après, il y a peut-être un élément de réponse qui participe au pourquoi, c'est que j'ai parlé tout à l'heure du fait qu'il y a des baromètres qui mesurent le degré de confiance que vous et moi, hein, que les gens d'une population ont en différents corps de métier, en fait. Et pour le moment, c'est encore les scientifiques qui caracolent en tête, c'est-à-dire qu'on est encore dans des sociétés où massivement les gens ont, en dépit de ce qu'on dit, massivement confiance, autour de 90%, donc 90% de gens, généralement, affirment avoir confiance dans le discours scientifique. Les médecins, pour une raison qui m'échappe toujours, sont toujours un tout petit peu au-dessus, c'est toujours ceux qui caracolent en tête de ces sondages. Par contre, malheureusement, les partis politiques sont tout en bas de la ligne, avec les journalistes aussi. Et donc ça participe au fait que c'est un fait sociologique de chez nous, que malheureusement, les gens n'ont pas très confiance en la parole politique. Et donc, inévitablement, si vous arrivez avec l'étiquette d'un parti, je pense que presque la réaction naturelle, ce serait de dire, oulala, là, je vais me faire... je vais me mettre dans une situation inconfortable dont je n'ai pas envie, etc. Donc ça participe peut-être de pourquoi il y a malheureusement payé le prix de cette configuration sociale qui vous préexiste, et malheureusement pas responsable, mais voilà.
Je voulais revenir sur ce qui vient d'être dit, mais en le contextualisant dans une autre situation. Vous avez rejoint ma pratique professionnelle de l'ensemble de ma carrière. J'ai commencé pendant 15 ans à être prof de religion, c'était ma formation au départ, à accompagner donc des jeunes sur une gestion de leurs connaissances dans le domaine de la culture religieuse. Non pas comme pasteur en ayant un devoir de pastoral, mais en étant diplômé en sciences religieuses, c'est-à-dire avec un savoir culturel, cognitif, situé. Voilà. Et c'est intéressant parce que, je prends cet exemple pour le faire le lien avec le porte-à-porte, à un moment donné, il y a un élève que j'ai eu dans un temps long, l'importance aussi de cheminer avec les gens plutôt que de ne les voir que 30 secondes à travers un poste, qui m'a dit, c'est le fils d'un de mes collègues, hein. Et il me dit à un moment donné, c'est quand même étonnant monsieur, ça fait 2 ans que je suis avec vous, et plus on avance dans le cours de religion, et moins je crois. Et je dis, ben, c'est très bien. Et son père de me dire en réunion de parents, tu te rends pas compte des débats que ça ouvre à l'heure du repas quand il y a eu religion dans la journée. Donc je voulais mettre ça en avant, parce que après ça, j'ai changé de métier. Enfin, l'évolution d'une carrière que l'on dit souvent plainte dans l'enseignement m'a permis de faire autre chose. Et j'ai fait de la formation de prof, mais dans un tout autre domaine qui va rejoindre ce que vous disiez, c'est l'éducation aux médias, et donc l'esprit critique, notamment par rapport à la dimension de l'info. Et donc moi, j'avais pour habitude de dire j'ai changé de métier, j'ai changé de religion. Mais c'est toujours des grands messes de l'info, de gens qui croient des choses, qui les transmettent, et puis qu'il faut décoder avec un peu d'esprit critique. Et j'ai bien aimé ce que vous aviez dit sur le JT, parce que c'est une des clés de lecture qu'on mettait souvent en évidence en éducation aux médias, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le journal télévisé ? Il y a ce que l'équipe de rédaction a choisi d'y mettre. C'est un dessin de Kroll, hein, de Gueluc, qui dit qu'est-ce qu'il y a dans mon journal ? Il y a dans mon journal ce que le journal veut bien me dire. Et ça veut dire aussi que c'est important, et ça, on n'en a pas parlé, mais c'est les silences par rapport à ce qui est affirmé. Donc, on dit des vérités, mais il y a des choses qu'on ne dit pas, mais le silence est aussi porteur de messages. Et l'ordre dans lequel on le dit, parce que quand on fait l'analyse d'un JT, d'avoir mis en premier lieu, et quand vous comparez les JT, c'est flagrant, quand vous voyez l'ordre dans lequel les sujets sont placés, ce qui signifie vraisemblablement une mise en importance, hein, une hiérarchisation de l'info, ça dit quand même beaucoup de choses sans le dire. Et c'est des éléments de réflexion que je voulais rajouter ici. Vous avez insisté sur la confiance, le temps. Et donc, moi, ce que je voulais peut-être rajouter, c'est le cheminement dans la découverte des vérités, des connaissances, parce qu'il y a aussi les vérités provisoires. Ça, vous n'en avez pas beaucoup parlé, mais s'il y a une limite cognitive... On essaye de faire repousser ces limites. Et les limites culturelles aussi, voyager et rencontrer des cultures différentes, c'est aussi ouvrir son esprit à des choses qui, au départ, n'étaient pas à ma portée.
Je suis d'accord avec tout.
Oui, je suis d'accord aussi.
En fait, ma question est surtout pour Olivier. Tu dis qu'actuellement, le niveau de croyance est le même que celui dans le temps. Or, tu dis en même temps que c'est plus visible et que donc, comment est-ce qu'on peut expliquer que en étant plus visible, le niveau de croyance reste le même. Je pense par exemple au sentiment d'insécurité que les gens ont. Moi, je suis persuadée qu'il y a moins ou peut-être même moins de choses qu'avant. Quand on écoute les relevés de la police et autres du même genre, ils disent qu'il y a moins de choses. Or, la perception qu'ont les gens est quand même plus importante. Donc on peut se dire que la croyance a augmenté dans ce cas-là.
Oui, tout à fait. Mais là il s'agit d'une croyance particulière, la croyance visiblement fausse dans le fait que l'insécurité augmenterait, alors qu'elle a l'air d'être démentie par les faits. C'est différent de ce que j'évoquais dans les baromètres où on parle de croyances dans le surnaturel. Donc ça, c'est des croyances bien spécifiques. Par exemple, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps de l'IFOP, qui est en fait une très mauvaise étude pour le coup, mais et d'ailleurs le sous-titre était assez explicite, c'était Génération TikTok, Génération Tok-Tok. Et en gros, c'était une étude qui avait déjà planté les conclusions avant même d'avoir commencé à faire l'étude, à savoir les jeunes sont abrutis aux réseaux sociaux, et on va le montrer, et on va montrer qu'il y en a un tiers d'entre eux qui sont platistes, qui croient que la Terre est plate, qu'en plus ils croient à la sorcellerie, et ça c'est sans doute tous les éditorialistes des chaînes conservatrices, on dit c'est parce qu'ils ont trop lu Harry Potter, alors ils savent plus faire la différence entre la sorcellerie et la... Alors voilà, on avait ce genre de truc, alors que quand vous allez rencontrer la plupart des jeunes maintenant, ils sont généralement beaucoup plus critiques, et d'ailleurs on le voit assez bien, sur les questions du climat, ils sont beaucoup plus engagés, sur les questions par exemple de tomber dans les pièges de l'IA maintenant, c'est plutôt les personnes âgées, moins les personnes jeunes, parce que justement ils ont de l'éducation aux médias, ils ont une éducation numérique, donc il y a même des baromètres de l'esprit critique qui montrent que contrairement à ce qu'on pense, les jeunes sont plus critiques que les générations, je m'y inclus dedans, plus hautes, quoi. Tout ça pour dire, oui, il y a cette étude qui avait déjà... Mais grosso modo, quand on regarde les baromètres, c'est ça que je disais tout à l'heure, c'est tout ce qui est croyance en le surnaturel. Alors, il y a des croyances bien estampillées, les anges, la sorcellerie, le pouvoir de ceci, etc., etc. Ça, c'est grosso modo assez stable. C'est-à-dire que c'est un fait sociologique, les sociologues le reconnaissent. Ben, il y a toujours des croyances comme ça qui perdurent. Et c'est pas parce qu'il y a moins de science, plus de science ou quoi qu'est-ce. Et je dis qu'ils perdurent, c'est peut-être pas au fil des millénaires, hein, jusqu'à où les baromètres vont, c'est peut-être il y a 50 ans, mais en tout cas dans le temps qui nous intéresse ici. Et c'est pareil exactement pour le complotisme ou ce genre de choses. Il y a toujours eu des croyances complotistes de ce genre. Mais c'est vrai que ce qui a changé, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc probablement qu'il y a autant de gens qui croient, ou grosso modo statistiquement, autant de gens qui croient en ces croyances particulières, on va dire les anges, pour prendre un exemple, mais on les voit plus. On les voit plus parce que maintenant, vous ouvrez votre chose et vous voyez sur votre fil d'actualité, parce que justement, c'est des croyances qui frappent un peu, j'ai une théorie sur les anges, alors qu'avant, vous ne la croisiez jamais. Donc je pense que c'est essentiellement cet effet-là auquel on assiste.
Je suis désolé, j'ai raté les 5 premières minutes, donc peut-être vous en avez parlé, mais en fait, que ce soit dans le métier d'informer, dans une rédaction, ou même dans un échange entre deux personnes, il y a quand même une dimension, me semble-t-il, qui est une dimension morale, c'est-à-dire qu'on part du principe qu'on est de bonne foi. Si je regarde un journal télévisé, je pars du principe que les journalistes dont c'est le métier m'informent correctement en ayant fait toute une série de travail, de tamisation ou de mise en récit, mais qui va me porter un message qui se rapproche le plus possible de la réalité des faits. Et c'est la même chose dans les interactions qu'on a, même avec des personnes avec qui on n'est pas d'accord, on part du principe qu'il y a des règles de bonne foi, où il y a, je ne sais pas comment il faut dire, un cadre moral qui veut qu'on ne va pas commencer à se mentir ou à mal se comporter, etc. Et je me demandais si vous percevez une évolution de ces règles-là, dans le sens où, alors là c'est vraiment ma subjectivité à moi, je vois sur les réseaux sociaux, j'ai eu un échange, ça date déjà d'il y a quelques mois, avec une personne que je connaissais de loin, et qui poste un article, et c'est vraiment n'importe quoi. Donc j'échange en privé, par message, en disant, mais tu te rends compte de ce que tu postes. Et cette personne est un peu emmerdée, parce qu'évidemment, moi, je la mets un peu dos au mur, et donc l'échange n'est pas très agréable, mais son argument final est de dire, oui, en fait, tu as raison, je me rends bien compte que c'est probablement pas la vérité, mais ça pourrait vraiment l'être, et donc ça justifie que je le poste, quoi. Et donc là, je me suis dit, c'est intéressant, parce qu'il y a un déplacement de ces règles non écrites qui veulent que ce que je mets sur un réseau social, dans mes échanges avec mon épouse ou avec mes voisins ou avec mes amis, ou enfin, on part quand même d'un principe de toute une série de règles, et là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger, mais je ne sais pas du tout si c'est objectivable ou si vous constatez ça aussi.
Oui, ben, enfin, moi je rejoins 100% de ce que vous racontez, c'est que oui, pour qu'il y ait un débat qui fonctionne, il faut, ici c'est le cas par exemple, on va tous partir du présupposé qu'on est sincère, que je ne suis pas en train de vous cacher des choses, ce genre de choses. Parce qu'on est tous plus ou moins, on vient ici pour chercher certaines choses, et on voit qu'on a des proximités probablement culturelles, et c'est pas forcément quelque chose d'acquis pour tout le monde, indépendamment des réseaux sociaux. Si vous prenez une personne raciste, elle va sans doute pas partir du principe qu'une personne étrangère va disqualifier sa parole avant même de l'entendre. C'est-à-dire qu'elle va pas admettre, elle va pas la considérer comme ce qu'on appelle parfois en philosophie un interlocuteur valable, comme quelqu'un qui va venir de façon sincère m'amener donner une information, elle va déjà la disqualifier d'emblée. Donc ça, c'est pas quelque chose qui, c'est quelque chose qui a toujours existé. C'est-à-dire qu'on a tendance, naturellement, à être, à supposer ces règles élémentaires tacites que vous dites de la parole avec les gens qu'on estime être valables. Et que si généralement on est un être humain, j'ai envie de dire éthique et normalement considéré, c'est-à-dire tout le monde. D'accord, mais évidemment, il y a des gens qui vont penser que c'est pas tout le monde. Que c'est une sous-catégorie de tout le monde. Et évidemment, je pense que l'espace médiatique, politique et informationnel qu'on a là-dedans est configuré de telle façon à brouiller les pistes de ces règles tacites. C'est clair. Et c'est clair que maintenant, et ça c'est peut-être une nouveauté, c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent la post-vérité, c'est pas simplement qu'il y a plus de mensonges, c'est que maintenant même ces règles tacites sont bafouées. C'est maintenant, en fait, l'acte de mentir est devenu une sorte de banalité. C'est plus, et par exemple, il y a des personnalités politiques qui ne se cachent pas du fait que, indépendamment de ce que la personne en face d'elle, qui est de l'autre bord politique, va dire, c'est disqualifié d'emblée. C'est-à-dire, elle pourrait dire blanc comme noir, de toute façon, quoi qu'elle va dire, j'ai déjà estimé dès le départ que puisqu'elle n'est pas de mon bord politique, c'est du bullshit, c'est du baratin, c'est du mensonge, c'est de la tromperie. Mais ça, c'est bafouer les règles de... en fait, c'est détruire la possibilité d'une démocratie, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a perdu les règles élémentaires qui font que le débat est possible. Et ça, je pense que c'est la vraie post-vérité, donc c'est pas qu'il y a plus de mensonges, c'est que maintenant... En l'occurrence, ça de plus qu'hier, il me semble, en tout cas, mais je pense que c'est aussi lié à l'espace informationnel. Il y a certaines règles, même le droit, on parle du droit international, ben maintenant tout le monde s'assied dessus, ça a l'air d'être considéré comme devenu banal, en fait, de s'asseoir dessus. On s'est affranchi de toute une série de choses qui tenaient encore. Il y a toujours eu du mensonge en politique, mais on avait honte de mentir à l'époque. Et quand on était pris les pieds dans le tapis du mensonge, il y avait un prix à payer. Il semblerait que maintenant, le mensonge politique. On peut mentir les yeux dans les yeux des citoyens, et de toute façon, on sait qu'il n'y aura pas de prix à payer derrière. Ça, je pense que c'est ça le danger de la post-vérité. Ce n'est pas qu'il y a plus de mensonges, c'est qu'on a brouillé la norme de vérité, quelque part. Et ça, je pense qu'il faut plus s'en inquiéter. Tout à fait.
Moi, si je peux rajouter aussi un petit élément, ce cas, c'est que ce qu'on diffuse sur nous-mêmes est aussi un marqueur social. Ce qu'on appelle aussi le signaling, le fait de partager de l'information, a deux fonctions. La première fonction, c'est de transmettre cette information à d'autres personnes pour qu'elles puissent acquérir de l'information. Mais aussi, le fait de partager une information dit quelque chose de nous et de notre appartenance sociale. Et il y a aussi, parfois, dans une information qui serait un peu frelatée, l'idée d'un monde que nous désirerions voir. Et en fait, par le fait de partager une information qui soit pas en fait tout à fait vraie, c'est aussi un marqueur social de dire « voici le monde tel que j'aimerais qu'il soit ». Et donc, c'est vrai qu'on a tendance à se dire « si la personne partage l'information, c'est dans un but informatif », alors que non, il n'y a pas que ça derrière. Il y a notamment, effectivement, ce marqueur social et un peu plutôt ce marqueur performatif de « si je dis que le monde est comme ça, alors le monde va se transformer », alors qu'en réalité, pas du tout. Mais ça peut aussi rassurer la personne qui pratique justement ce signaling et ce marqueur social du monde tel que je le désirerais être. Quoi. Voilà. Et parfois, on confond la notion juste purement de valeur informative de l'information que je partage, de la valeur identitaire qu'elle véhicule.
Non, mais moi, j'avoue que je trouve que pouvoir vérifier qu'une information est vraie ou fausse, c'est effectivement un élément d'esprit critique utile. Et en même temps, comme je disais tout à l'heure, le monde est tellement vaste, la connaissance, elle est infinie. Et, elle est, voilà. Et donc, en général, je vérifie plutôt la crédibilité de la personne qui... Parce que je suis incapable, honnêtement incapable. Je ne fais pas l'expérience directe de cette vérité, donc je fais confiance. À 99% du temps, ma croyance, que c'est, en fait, c'est de la confiance. Dans le livre dans lequel je lis l'information, dans la personne qui m'en parle. Et donc, mon esprit critique, il a tendance à s'exercer tout à fait différemment, plutôt que d'essayer de trancher est-ce que cette information est correcte ou pas correcte. Il est plutôt à étudier l'intention derrière le fait d'apporter cette information, qu'elle soit correcte ou pas correcte, parce que finalement, je suis fort bien incapable souvent d'être certain qu'elle le soit ou pas. Et donc, pourquoi on m'amène cet élément de fait et pourquoi on ne m'en amène pas un autre? Donc, c'est les intentions derrière, les éléments factuels qu'on m'amène et comment on me les amène et comment on me les présente. Et donc, pour moi, c'est là que l'esprit critique doit vraiment s'exercer. Et souvent, il se fait comme ça, même si les gens n'ont pas la conscience d'en fait travailler de cette façon-là. Mais c'est comme ça, souvent, qu'ils vont évaluer l'effet qu'ils vont vouloir transmettre, effectivement, pour marqueur social, etc. Et donc, c'est là-dessus que se joue, j'ai l'impression, les enjeux les plus importants. C'est bien comprendre, étudier et essayer de sentir les intentions qui sont derrière les faits, qui sont infinis, qu'on choisit toujours ponctuellement et toujours partiellement. On oublie de dire que il y a une subjectivité et une partialité totale dans la sélection des faits. Donc le rédacteur en chef qui dit, voilà, moi je vais prendre tel point. Et cette partialité elle est totale et ne fût-ce que se rendre compte de ça et d'étudier voilà, la notion du pourquoi je reçois cette information-là et quelle est l'intention des personnes qui me la transmettent. Je pense que c'est là qu'on peut vraiment faire du travail.
Je vous rejoins complètement et tellement qu'en fait on a même mis sur pied avec des collègues des ateliers d'esprit critique qui capitalisent exactement sur ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que, parce qu'en fait, ce que vous venez de dire, c'est communément admis. C'est-à-dire qu'on le sait bien aujourd'hui, à l'heure de ce qu'on appelle le déluge épistémique, il y a tellement d'informations, et vous avez dit, il y a une infinité d'informations, et on n'a pas le temps, l'énergie et les compétences pour aller nous-mêmes vérifier cette information tout le temps. D'accord ? Il y a un coût cognitif beaucoup trop important. Le fameux « faites vos propres recherches », ben ça marche pour 0,02% de nos croyances. Hein. Quasiment toutes nos croyances, elles ne viennent pas de nos propres recherches. Elles viennent du fait qu'on a fait confiance dans des experts qui ont, eux, le temps, les ressources, les capacités pour aller les chercher. Si je sais que la Terre est ronde, ce n'est pas parce que j'ai vu qu'elle était ronde, c'est parce que des astronomes me l'ont dit ou qu'on me l'a appris à l'école. Ce n'est pas parce que j'ai fait mes propres recherches sur la rotondité de la Terre. Et c'est comme ça pour probablement 99% de nos croyances. Et donc, ce qui veut dire que, pratiquement, quand on fait de la formation à l'esprit critique, on ne doit pas former les jeunes ou les moins jeunes, on dit toujours les jeunes parce qu'on pense à une logique de formation, mais on ne doit pas former les personnes à aller faire leurs propres recherches pour aller eux-mêmes éplucher la littérature scientifique, pour aller regarder si effectivement l'information était bien construite, ou aller eux-mêmes dans un petit laboratoire, dans leur garage, vérifier la vaccination, aller eux-mêmes faire des petites expériences. C'est jamais comme ça que ça se passe. Les ateliers qu'on fait, c'est de former à identifier les bons experts des mauvais experts. C'est-à-dire quels sont les indicateurs que les paroles dites expertes renvoient, qui vont signaler le fait que ce sont des paroles fiables plutôt que des paroles pas fiables. Et il y a toute une série d'indicateurs. Vous avez mentionné, je pense, l'intention, on peut appeler la sincérité, est-ce qu'il existe des conflits d'intérêts, est-ce que la personne est compétente, est-ce que la personne a un track record de fraude, est-ce que la personne... Et vous exploitez toute une série d'indicateurs, il y en a une dizaine qu'on peut lister, qu'on peut rechercher avec des recherches Google assez facilement, pour se dire, bah, tiens, telle parole experte, c'est pas qu'elle détient la vérité, et c'est pas que je lui fais confiance aveuglément, c'est que, toute chose étant égale par ailleurs, pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, c'est sans doute celle qui est la plus fiable par rapport à une autre que j'estime moins fiable. Ce qui veut pas dire que ça arrive que la moins fiable ait raison, et que la plus fiable se soit trompée, ça arrive toujours, mais rationnellement, j'ai plus de raisons de penser, jusqu'à preuve du contraire, que la personne X qui satisfait mieux tous ces critères est plus fiable. Et c'est ça, être critique, c'est être capable de faire ce calcul de jugement, et de dire, ben, ma boussole s'oriente vers celle-ci. Et on doit toujours faire le risque de l'erreur, être quelqu'un de super critique, on peut être la personne la plus critique du monde, et parfois se tromper, ça arrive de se tromper sincèrement. D'accord ?
Ouais. Très très brièvement, oui. Juste dans le mot que j'ai entendu plusieurs fois, vous employez le mot complotiste, mais régulièrement dans cette analyse que vous venez de faire, d'études, de quels sont les éléments, je me suis souvent senti du coup dans la catégorie des complotistes, qui est une catégorie que je ne me suis pas donnée moi-même. Voilà. Et pourtant, dans cette analyse critique, j'ai été victime moi-même de voilà. Donc, je pense que c'est un mot qu'il faut connoter.
Tout à fait d'accord avec vous. Voilà. Le mot complotiste, comme le mot anti-vax, comme le mot ceci, cela, c'est clairement des mots disqualificatoires. Sur le plan scientifique, ils n'ont pas beaucoup de valeur. Si être complotiste, c'est dire il pourrait exister un complot, ben ça, c'est pas irrationnel, parce que je le rappelle, des complots, ça existe. Des policiers, tous les jours, ils enquêtent sur des complots criminels, et quand ils disent, ben, il y a sans doute une cellule criminelle qui dans l'ombre trafique quelque chose pour faire, on va pas leur dire. Espèce de complotiste, tu penses qu'il y a un complot, le Watergate c'est un complot, le Dieselgate c'est un complot, les Panama Papers, il y a plein de complots, ça existe, d'accord. Et donc c'est clair que c'est souvent, malheureusement, le mot complotiste, comme le mot anti-vax, tout nécessairement, c'est des manœuvres, c'est des mots rhétoriques, de disqualification. Ah ben vous êtes un complotiste, deux points, ça veut dire taisez-vous, vous n'avez plus rien à dire. Et ça je suis d'accord que c'est pas une manière de faire un débat, c'est une manière de clore le débat de manière indue, donc je regrette que vous ayez été qualifié comme tel, évidemment.
Oui, hier, je pense que c'était au journal télévisé, on passait une chanson qui avait été créée par l'intelligence artificielle. Et en fait, 80% déterminaient que c'était un vrai groupe. Donc je me dis qu'on rentre vraiment dans un monde parallèle où toutes vos notions d'esprit critique, de connaissance, de vérité et de croyance vont être complètement changées.
Il y a toujours une question sur l'IA pour le moment. Oui, la réponse est oui. Oui, en fait. Mais enfin, alors, maintenant, moi, j'essaye de voir le côté vertueux de ça, parce que ce qui est intéressant, c'est que ça peut être aussi une arme qu'on peut retourner contre des individus. Par exemple, c'est vrai que l'IA peut à un moment donné brouiller certaines pistes. Par exemple, et là, je discutais avec une collègue en faculté de droit qui s'intéresse plutôt à tout ce qui est utilisation de l'image des mineurs et harcèlement, etc. Bref, par exemple, des deepfakes où on prend le visage de quelqu'un, on le remet, enfin, grâce à une photo d'une personne, on pourrait générer une image d'une personne qui fait quelque chose dans un environnement ou dans une situation qui n'est pas très désirable. Et donc c'est vrai qu'on pouvait mentir comme ça. Maintenant, moi, ce que je dis, mais c'est en fait retourner, on peut retourner l'arme aussi. C'est-à-dire que si moi, un jour, on me filme vraiment, par exemple, en train de me balader en slip dans Namur, il arrivera un jour où on ne pourra même plus dire que, alors que c'est vrai, je me baladais vraiment en slip dans Namur, je pourrais dire non, ça a été monté de toutes pièces par une intelligence artificielle. Et donc, voilà, je veux dire par là qu'à un moment donné, ça va se mordre la queue quand l'IA va être tellement efficace que ça va se brouiller. Mais oui, c'est un enjeu fondamental. À un moment donné, toutes les limites vont être complètement brouillées. Pour le moment, on arrive encore à faire la distinction. Mais, alors, je ne sais pas, ceux qui font les prévisions sur le fonctionnement de l'IA, mais d'ici 5 ans, on pourrait se revoir et effectivement, il y aura des vidéos générées par IA. Ce sera plus du tout possible sans l'aide de logiciels ou sans l'aide d'algorithmes qui permettent de traquer justement les manipulations faites par IA, de déterminer visuellement ce qui est lié à l'IA ou ce qui n'est pas l'IA. Mais c'est un enjeu fondamental d'esprit critique et pour lequel on nous pousse aussi à développer des formations. Et c'est un enjeu qui est tellement colossal et aussi qui est assez imprédictible. Enfin, je ne sais pas au niveau de la technologie, mais il y a encore 7-8 ans, si on nous avait demandé de prédire l'avenir des modèles, enfin des LLM, des modèles de langage très larges, on n'en aurait pas, je pense, été capable de voir à quel point le monde allait changer. Et on a aussi un point aveugle par rapport à ces évolutions qui sont faites. Mais l'IA est un enjeu fondamental.
Et j'ajoute un petit point, c'est raison pour laquelle, justement, si, en imaginant, ça ne paraît pas si prophétique de le dire, qu'on arrivera à un moment où on ne peut plus humainement distinguer une vidéo authentique de Régis qui promène en slip ou une vidéo générée par IA, ben ça illustre bien ce que je disais tout à l'heure. Toute la formation à l'esprit critique peut valoir ce qu'elle vaut, on ne pourra plus faire la distinction. Et donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut réguler en amont. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit simplement, il faut qu'il y ait un label sur les vidéos produites par IA, il faut que si des vidéos produites par IA n'aient pas ce label, ben, il faut qu'il y ait une sanction. Mais il faut qu'il y ait une régulation collective, ça ne va plus jouer au niveau individuel parce qu'on n'aura plus cette capacité de faire la distinction. Et je pense que c'est vers ça qu'on va, hein, l'IA Act, etc., c'est d'essayer un peu tardivement, parce que la temporalité n'est pas la bonne, de réguler ce marché avant d'arriver dans des situations où effectivement on va se retrouver à plus être capable.
Avec un gros enjeu politique, mais avec un gros enjeu qui va te dire si on régule, comment est-ce qu'on régule? Parce que ça va, alors, avec cette idée de est-ce qu'on est dans un endroit où on va avoir une liberté maximale et finalement c'est un peu comme si on ouvrait le marché à l'information en disant faites ce que vous voulez, ou si on met à un moment donné des balises, bah, quelles vont être les balises, qui va poser les balises? Et évidemment il y aura toujours des personnes qui vont dire oui mais mettre des balises c'est impacter ma liberté, oui d'accord mais voilà. Mais donc dans ce débat, et je pense qu'il y a eu un article qui est sorti aujourd'hui parce que je pense que c'est le PS qui a fait la demande d'inviter des influenceurs et des personnes plutôt des réseaux sociaux pour avoir un grand débat démocratique autour de la génération de ces contenus et de l'information pour réguler l'information. Oui, mais moi, quand je vois le mot « réguler l'information », alors certes, je comprends la bonne intention qu'il y a derrière, mais j'ai quand même une petite loupiote derrière ma tête qui dit « attention ». Voilà, et à voir comment ça va être fait.
Oui, mais je rebondis là-dessus pour dire, en Belgique, on a déjà un dispositif qui s'appelle, par exemple, le cordon sanitaire, on le connaît bien en Wallonie, médiatique, ben, on pourrait envisager un cordon sanitaire épistémique du même genre. Mais bien sûr, ça crée évidemment des problèmes de liberté d'expression. Pardon.
Déjà, merci beaucoup pour vos interventions. Je me suis posé une question en fait, que j'avais déjà en venant, qui fait le lien avec différents sujets dont on a déjà parlé, notamment l'enjeu du choix éditorial dans les journaux télévisés. Mais en fait, comme vous avez dit, on est dans un contexte où on a de plus en plus de surcharge d'informations qui arrivent de plus en plus dans tous les sens. Et en fait, l'enjeu du coup du choix éditorial me semble de plus en plus important. Face à quelle information on voit, parce qu'on ne peut pas, on peut pas tout voir. Et dans ce contexte-là, il y a quelques semaines, quelques mois, j'avais entendu une comparaison que je trouvais assez pertinente de quelqu'un qui, en parlant des algorithmes de sélection de contenu sur les réseaux sociaux, se dit, est-ce qu'au final, on n'en arrive pas eux-mêmes à un choix éditorial dans ce contexte-là, et qu'est-ce que ça implique? Et donc, je me demande qu'est-ce que ça vous évoque comme réflexion, et notamment en faisant le focus de le concept même de choix. Ben, du coup, moi, on en a parlé plusieurs fois, parler du marché de l'information. Pour moi, je me dis que plus on met des choses liées à un marché, plus ce sont des choix qui ne sont pas faits par un humain, en tout cas, ils ne sont plus faits par nous, ils sont faits par d'autres personnes, en fait, mais pas par une personne tout court, et qu'est-ce que les enjeux que ça peut impliquer derrière? Perdre la capacité de savoir justifier ce choix, pourquoi tel choix a été fait. Et on l'a dit plusieurs fois, le concept même de l'intention derrière le choix. Je rebondis, par exemple, quelqu'un qui partage quelque chose de faux sur un réseau social, est-ce qu'il le partage parce qu'il croit que c'est vrai? Est-ce qu'il le partage parce qu'il sait que c'est faux, mais il veut persuader les gens que c'est pas vrai, une mauvaise intention? Ou parce qu'il sait que c'est pas vrai, mais il rêve que ce soit le cas?
Mais je pense que ça rejoint à ce qu'on a discuté, c'est-à-dire que moi je pense que la responsabilité ne doit pas porter sur l'individu. Donc dans l'exemple que vous mentionnez, il y a un individu, est-ce qu'on doit se poser la question, est-ce qu'il a partagé pour telle raison, pour telle raison, pour telle... Est-ce qu'on devrait le blâmer parce qu'il a mal partagé, ou est-ce qu'on devrait le louer parce qu'il a bien partagé, il a eu le bon réflexe de propager quelque chose de vrai? Je pense que l'enjeu n'est pas au niveau individuel, l'enjeu est au niveau de la modération sur la plateforme, ici vous parlez d'un réseau social en particulier, et c'est à ce niveau-là que ça doit jouer, c'est pour ça que je pense qu'il y a un enjeu démocratique profond de réguler ces réseaux sociaux qui quand même régule nos espaces de vie et nos espaces informationnels. Et on voit bien que ce qui s'est passé ces dernières années, la tendance est plutôt à la dérégulation, avec les effets que, évidemment, que ça peut avoir. Et je pense que, enfin, à titre personnel, je renfonce la même porte. La responsabilité ici, elle est collective. Et si je pense, et je suis de ceux qui pensent que les réseaux sociaux sont plutôt néfastes que positifs, même s'ils ont des côtés positifs, pour le débat public et la démocratie, je pense que la responsabilité est à porter sur les acteurs de ces réseaux sociaux qui monétisent et qui le savent très bien. Je veux dire que les réseaux sociaux ont des effets négatifs pour lesquels ils sont souvent appelés à témoigner pour pouvoir s'en expliquer, mais ça ne les dérange pas dans la mesure où finalement c'est leur fonds de commerce quelque part. Et évidemment, ils freinent des cas de fer face à toute régulation parce que pour eux, évidemment, c'est un manque à gagner profond et ils savent bien que ce qui fait le buzz et que ce qui se diffuse, c'est ce qui est viral, c'est ce qui joue sur la peur, qui joue sur les émotions, et que c'est pas la vérité, et que le but du jeu n'est pas de faire une plateforme comme au début des réseaux sociaux, on était très utopiste, hein, on va faire une sorte de grande plateforme où tout le monde va venir parler, ça va être magnifique, ça va être du débat public et ça va être très riche. Ben, on a bien vu qu'en fait, c'est pas ça qui est en train de se passer, mais je pense qu'ils le savent bien, il y a un certain cynisme derrière, et c'est que par la régulation qu'on va pouvoir, je pense, oui, faire quelque chose.
Oui. Mais par rapport au nombre d'informations énormes, donc c'est la question de l'infobésité, il y a des études même assez robustes qui montrent qu'en réalité, les réseaux sociaux ne nous font pas vraiment changer d'avis. En fait, on est très résistant au changement d'avis, mais on va juste y cueillir ce qu'on a envie d'aller cueillir et juste se conforter. Et en réalité, les réseaux sociaux n'ont pas vraiment inventé cette idée de sélection de l'information. Je prends un exemple. Avant que les réseaux sociaux n'existent, par exemple, si je suis quelqu'un de droite, je vais aller lire de la presse de droite, je vais fréquenter probablement des personnes qui pensent comme moi, etc. Et donc maintenant, quand je suis sur les réseaux sociaux, si je suis quelqu'un de droite, je vais être confronté en fait à de l'information de droite avec des gens de droite. Et ce qu'on faisait un peu naturellement en allant dans une librairie chercher le journal qui correspondait à nos valeurs, à fréquenter des gens qui correspondent à nos valeurs. Et puis si j'avais quelqu'un qui venait m'embêter avec des idées qui n'étaient pas les miennes, bah, qu'est-ce que je faisais? Je me mettais de côté, je n'allais plus fréquenter cette personne. En réalité, les réseaux sociaux, ils le font pour nous parce que nous avons toujours fonctionné comme ça, c'est-à-dire que ce qui nous fait dissonner cognitivement nous déplaît. Et bon, après, là, il y a un enjeu qui est un enjeu purement financier, qui est de si je ferme mon réseau social parce que je suis confronté à un contenu qui me déplaît, bah, le réseau social perd de l'argent parce qu'il ne peut pas me proposer du contenu publicitaire. Mais en tout cas, cette idée de nous proposer du contenu qui flatte qui on est, même avant les réseaux sociaux, l'être humain, il a toujours fonctionné comme ça, il s'est toujours rapproché de ce qui validait plus ses croyances que ce qui les mettait à distance. Et en fait, les réseaux sociaux ont reproduit ça et en ont fait un espace finançable. Mais en soi, le réseau social n'est pas le grand mal qui amène ça, et ça a juste amplifié le phénomène, mais un phénomène qui existait même déjà juste à l'échelle purement sociale.
C'était juste une petite question de clarification dans la réponse que vous avez formulée, Olivier, à Baptiste, sur les questions de la mauvaise foi. Vous avez terminé votre intervention, si j'ai bien noté, par « en fait, on a brouillé la norme de vérité ». Et en fait, ça me perturbe assez, parce que moi, je n'avais pas du tout capté, avec la petite introduction épistémologique que vous avez faite, que la vérité pouvait être classée dans une norme où on pouvait être plus ou moins d'accord avec. Et donc, est-ce que vous pouvez clarifier pour moi ce que c'est que norme de vérité ?
Effectivement. Donc, quand je parle de norme de vérité, c'est quand un discours est généralement guidé par la vérité, c'est-à-dire que, enfin, généralement, idéalement, on va dire, idéalement, lorsque je vous dis, par exemple, j'ai soif, d'accord, vous pouvez penser que je suis sincère parce que mon propos est guidé par la vérité. Il peut être faux, parce que peut-être que je mens, mais par défaut, vous allez considérer que ce qui m'anime dans la formulation de ma croyance que je vous transmets, c'est le fait que je veux vous restituer une certaine vérité. Et ça, c'est généralement un présupposé relativement de base à toute discussion. Et quand on bafoue cette norme, c'est-à-dire quand on ment, ben on peut être blâmable moralement parce qu'on n'a pas respecté la norme de vérité qui est implicite. Maintenant, il y a une nouveauté, il y a une troisième catégorie qui s'est surajoutée dernièrement, et l'IA en est l'exemple parfait. Ce qu'on appelle le baratin ou le bullshit, et ça c'est ce qui apparaît dans des moteurs comme ChatGPT, c'est exactement ce qu'il produit, il n'est pas guidé par une norme de vérité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lui attribuer le fait qu'il désire dire la vérité, tout ce qu'il désire faire c'est pour prédire le mot suivant, reproduire la pensée commune, et il se fait que de temps en temps ça fait du vrai, de temps en temps ça sort du faux, c'est cette fameuse hallucination, mais il n'a pas ce guide de vérité. Et le problème c'est que ça c'est beaucoup plus dangereux pour le débat, c'est d'avoir donc des interlocuteurs, bon, machines ou humains, qui ne sont même plus guidés par une norme de vérité. Le cas emblématique, c'est Donald Trump. On l'a souvent pris comme le baratineur en chef. Quand il dit quelque chose comme, je ne sais plus, au temps du Covid, buvez de l'eau de Javel, ça va vous guérir du Covid, d'accord ? En fait, il ne faut même pas penser qu'il a juste menti. Bon, ce n'est pas vrai ce qu'il dit, d'accord, ne buvez pas d'eau de Javel. C'est qu'en fait, il a baratiné. C'est-à-dire qu'il a dit quelque chose qui est déconnecté d'une norme de vérité. Il l'a dit pour le dire. Parce que le disant, ça a un autre effet que de transmettre une information. C'est éventuellement de choquer, éventuellement de lui attirer, de flatter un électorat. C'est éventuellement... mais peut-être que non. En fait, et l'enjeu est celui-ci, c'est de dire, en fait, il y a même fort à penser qu'un président des États-Unis qui a les ressources suffisantes que pour avoir les meilleurs experts du monde, c'est-à-dire qu'il avait la possibilité de savoir, en fait, assez facilement, qu'en fait, c'est faux ce qu'il raconte. Mais le fait qu'il s'assied dessus, ça montre qu'il n'est même plus guidé par une norme de vérité. Et ça, c'est particulièrement dangereux.
Ok, merci. Je propose qu'on s'arrête ici. Je vous remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation et d'être venu partager tout cela.
Géraldine Duquesne animait ce débat. Vous étiez le 13 novembre 2025 au Cinex à Namur. Et vous avez écouté Régis Falck et Olivier Sartenard de l'Université de Namur sur le thème « Croyance ou vérité, comment créer du dialogue en société ?» Cette conférence était organisée par Etopia, Centre d'animation et de recherche en écologie politique, en association avec les Amis de la Terre. Retrouvez cet enregistrement sur www.etopia.be.